Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 7 octobre de 18 à 21h, et en différé le jeudi 8 octobre, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82. Et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Et votre agonie cruelle, la honte de
Bonsoir à tous. Le programme de ce soir, comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez éteindre la radio et prendre un livre. Non, mais écoutez, après tout, il y a aussi des auditeurs qui sont forcés d'aimer, par exemple, je sais pas, Léon Arnoux, par exemple, qui va venir ce soir. Peut-être des gens qui ne l'aiment pas du tout. Alors, ils sauront que vers 19h15, Léon Arnoux viendra, donc à ce moment-là, tac. Alors, on va commencer avec Jean-Yves Le Gallou, que je remercie d'être venu ce soir, malgré les nombreuses obligations de président du groupe Front National,
conseil
régional d'Île-de-France. Parce que Jean-Yves Le Gallou a lancé, avec les militants de la Fédération de Paris, si je ne me trompe pas, et les élus du Front National au conseil régional d'Île-de-France, une opération d'information et d'action politique autour de l'affaire des Maliens, des squatteurs maliens de Vincennes.
Oui.
Mais c'est une opération qui va beaucoup plus loin, on va en parler, parce que elle prend une dimension nationale, évidemment, et elle prend une dimension de dénonciation d'une certaine politique socialiste en matière d'immigration. Ensuite, on parlera du dernier numéro de Credo qui va sortir prochainement et qui est un numéro absolument passionnant qui recense les résultats de la fameuse enquête Credo. Vous savez que Credo avait fait une enquête auprès des évêques de France pour savoir ce qui, bon sang de bois, pouvait bien interdire à un catholique d'être sympathisant du Front National. Et ça aboutit, le résultat de cette enquête, c'est moins une enquête sur le Front National ou sur les catholiques et le Front National qu'une enquête sur les évêques de France. Et je dois dire que vous allez voir le résultat, c'est effrayant, absolument effrayant. Ensuite, nous recevrons un jeune journaliste qui s'appelle Cyril Leblanc. Enfin, en réalité, il s'appelle pas Cyril Leblanc, il s'appelle Cyril de Bekech parce que c'est mon fils. Mais comme c'est pas utile de montrer qu'on fait du copinage familial à la radio, il s'appelle Cyril Leblanc.
Et le pseudonyme est un peu raciste, je crains.
Oui. Mais en réalité, il n'a rien à voir, il n'a aucune connotation, de couleur, de peau, c'est une couleur d'opinion. C'est-à-dire qu'il est blanc. Dans la famille, on est tous blancs.
Écoutez, monsieur de Bekech, je vous expliquerai ça au tribunal.
Hein. Voilà. Mais bon, ben, trop tard, c'est fait. Ensuite, donc, nous recevrons Léon Arnoux, qui nous parlera de son opération, qu'il mène avec un entêtement remarquable qui s'appelle...
Bouvines.
Oui, c'est Bouvines. C'est le blason de Taverny, sauver le blason de Taverny. Et en réalité, c'est une opération intéressante parce que, en ce moment, les municipalités sont en train de détruire les blasons de très nombreuses villes de France. Et il ne faut pas laisser faire ça, parce que c'est encore une manière de nous déraciner. Ils remplacent ça parce que dans le temps, les villes avaient des logos, des blasons. Maintenant, elles ont des logos. Là, c'est beaucoup plus chic, n'est-ce pas? On a un logo. Alors, en général, c'est une espèce de truc tordu. Alors, il y en a qui ratent leur coup. Il y a une ville, par exemple, qui a fait, je ne sais plus laquelle, j'ai oublié, mais qui a fait un logo. C'est tout simplement les deux runes de SS. C'est embêtant quand même. Ils ne se sont pas aperçus de ça. Voilà. Donc,
en règle générale, sauf cette regrettable bavure, ça permet à la fois de déraciner davantage les gens, puisqu'on supprime ce qui correspond à la tradition de la ville, tout en faisant alors de la manière la plus simple du monde des fausses factures importantes, puisque rien n'interdit de facturer 300, 400, 500 000 francs le logo en question, ce dont les villes ne se privent pas. Dans mon département des Hauts-de-Seine, la ville de Boulogne a dépensé, Boulogne-Billancourt, plusieurs millions de francs pour remplacer un blason par un logo, et ça se fait partout. Et seul, je dois dire, mais Carnoux le dira tout à fait bien tout à l'heure, seuls les élus du Front National luttent contre cela. Sinon, c'est le consensus mou dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres.
Bon, ensuite, à partir de 19h30, nous recevons, comme d'habitude, Marc Dem. Puis, à 19h45, je donne les heures, en fait, c'est une plaisanterie, parce qu'on ne les respecte jamais. Mais enfin, en gros, nous aurons...
Vous faites comme TF, hein, vous ne respectez pas les heures.
Pas du tout, non. Nous aurons la chance d'avoir...
Il n'y a que pour les recettes de publicité, que c'est pas tout.
Oui, ben là, non. Nous, alors, c'est, de ce côté-là, c'est quand même très modeste. Hein. Il faut bien dire, si j'avais dû vivre de ce que m'a rapporté la publicité sur Radio Courtoisie depuis 5 ans, je serais mort. Pour tout dire, mort de faim. Donc nous recevons Jacques Herz. Alors Jacques Herz, c'est une grande joie de l'avoir ici, un grand honneur, parce que c'est un historien, c'est un professeur à la Sorbonne, et il est considéré comme, je crois qu'on peut le dire, puisqu'il n'est pas là, autrement il se réécrirait, mais il est considéré comme le plus grand, l'un des tout plus grands médiévistes du monde. Et il est invité aux États-Unis pour des conférences, enfin il est invité dans le monde entier. Il a eu la gentillesse d'accepter de venir dans cette émission. Il vient de publier un livre qui s'appelle, alors là c'est complètement drôle parce que c'est un médiéviste, et il a intitulé son livre « Moyen-Âge, l'imposture ». Et c'est un livre dans lequel il démontre tout simplement que le Moyen-Âge n'a jamais existé. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée est là.
La démarche est dangereuse.
Oui, pour un médiéviste, ça peut être embêtant. Et puis nous recevrons Pierre Wouters, qui nous parlera d'une initiative dont j'ai déjà que j'ai déjà évoquée rapidement la semaine dernière. Il s'agit de cette journée de rassemblement en faveur du respect de la vie qui se déroulera le samedi 10 octobre 92 à Saint-Cloud. Voilà. Avant d'en venir à l'affaire des Maliens avec Jean-Yves Le Gallou, je voudrais reparler de l'émission de la semaine dernière. Il se passe une chose avec la radio, c'est constant, c'est que certains messages ne passent pas, ou passent plutôt d'une façon déformée. Alors ça a été le cas quand on a parlé de Philippe Daudet. Beaucoup d'auditeurs ont cru qu'on s'associait à l'hypothèse qui avait été avancée au moment de la mort de Philippe Daudet, le fils de Léon Daudet, qui a été retrouvé mort d'une balle dans la tête dans un taxi. François Broche ou moi-même, François Broche qui est l'auteur d'une biographie de Léon Daudet, ou moi-même, nous nous associons à l'hypothèse qui avait été avancée, c'est-à-dire que Philippe Daudet avait trahi la tradition familiale en devenant anarchiste et en entrant dans les milieux anarchistes. On n'a pas du tout adhéré à ça. On a exposé cette hypothèse qui avait été avancée par certains historiens, mais personnellement, je ne le crois pas. Et alors, cette radio est vraiment un outil extraordinaire parce que j'ai reçu à la suite de ça une lettre que je vais vous lire et qui montre à quel point on est près de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a l'impression, nous, que Léon Daudet, c'est très ancien, que Philippe Daudet, c'est l'affaire Philippe Daudet, c'est une affaire du temps passé, pratiquement. Et voilà ce que je reçois. Monsieur, je suis une vieille dame adhérente qui suit régulièrement les émissions de Radio Courtoisie. Mercredi soir, vous aviez convoqué l'auteur d'un livre sur Léon Daudet. J'écoutais avec intérêt, étant sa nièce. Au passage sur la mort de Philippe Daudet, j'ai éclaté en sanglots devant mes enfants. Le mensonge et la haine sont-ils immortels? Philippe était pour moi une sorte de petit frère. Nous vivions constamment ensemble. Cet enfant de 14 ans et demi, si gai, si spontané, bon et bon vivant, gourmand comme ce père qu'il adorait, j'allais écrire qu'il idolâtrait, c'était un enfant très pieux. L'assassinat de Marius Plateau fut pour lui, si sensible, un très grand drame. Je crois que tout le mal vient de là. Mis à part ces quelques fugues, c'était un enfant très jeune de caractère, très doué et qui aurait toujours suivi son père dans ses idées. Je suis la petite fille d'Anna Daudet, sœur d'Alphonse, et la petite fille de Léon Allard, frère de Julia Daudet. Ayant perdu ma mère très jeune, ma tante Léon Daudet, sœur de ma mère, fut une seconde maman pour moi. Cette lettre est un peu longue, je tenais à vous dire donc que je suis certaine, c'est la vérité, on a tué Philippe Daudet. Avez-vous lu le livre de Madame Léon Daudet, La vie et la mort de Philippe, avec mes meilleurs sentiments? Et alors, cette dame, je peux faire la confidence, je pense que ça ne prêtera pas à conséquence, cette dame, c'est la mère de notre ami Éric Delcroix, l'avocat. Donc, Éric Delcroix est en quelque sorte, si je ne me trompe pas, un petit neveu de Léon Daudet. C'est des rencontres. Alors, Éric Delcroix m'envoie la lettre de sa maman, joint à la lettre de sa maman un petit mot en me disant « C'est quand même dommage que les biographes ne se livrent pas à des enquêtes. » Et c'est vrai que le bouquin de Broche est passionnant, mais c'est un livre qui a été fait à partir de textes. C'est un livre qui a été écrit à partir de la lecture de l'œuvre de Daudet et certainement de rencontres avec des gens qui l'ont connu. Mais malheureusement, pas avec cette dame qui était sa cousine, ou plutôt sa nièce, et qui aurait certainement eu des choses extraordinaires à raconter. Et elle m'envoie une copie de la lettre que Léon Daudet écrivit à sa mère après la mort de Philippe Daudet. « Chère maman, je viens de voir mon beau Philippe, je lui ai mis son crucifix sur son cœur, mon chapelet dans ses doigts, je l'ai béni, il sourit encore un peu, tout est bien, que la volonté de Dieu soit faite. » Je compte sur vous, chère maman, pour me donner le courage et le calme nécessaires, car moi, je vis au-delà de la douleur. Voilà. Je remercie cette auditrice de nous avoir envoyé ce témoignage. C'est tout à fait intéressant de découvrir que des événements qu'on croit vraiment des événements anciens sont encore complètement partie prenante de la vie quotidienne de certains de nos amis, de gens que nous côtoyons. On mesure à quel point l'impression qu'on a de la durée est quelque chose de très très relatif. Voilà, venons-en maintenant à cette affaire des Maliens. Alors, Jean-Yves Le Gallou, vous avez donc pris l'initiative avec les élus du Conseil régional d'Île-de-France de réagir contre une situation qui, il faut bien le dire, est une situation folle, puisque maintenant, il y a plusieurs mois que des centaines de Maliens sont installés sur l'esplanade de Vincennes, dans un village... prétendument un village de toile, en fait c'est un village de baraques en bois, avec la tolérance impuissante et résignée des autorités.
Un peu plus même, puisque si le village tient, c'est parce qu'il bénéficie d'un certain nombre de services publics. Eau, électricité, etc. Donc c'est un peu plus que de la tolérance et de la complaisance. Et là où c'est très important, je crois que ni les gouvernants, ni sans doute encore l'opinion aujourd'hui ne l'a mesuré, c'est que c'est la première favela d'Île-de-France. Il y a eu des bidonvilles dans les années 60. Ces bidonvilles ont été supprimés, remplacés par les grands ensembles, mais la Ve République, dans ses débuts, s'était flattée de ce résultat.
C'était surtout qu'il y avait beaucoup de fric à prendre, là
aujourd'hui,
encore.
Aujourd'hui, on voit s'installer à Vincennes la première favela. Et il est évident qu'à partir du moment où le gouvernement la laisse s'installer dans la durée, et reloge, on dira d'ailleurs dans quelles conditions et avec quels avantages annexes un certain nombre de gens qui y habitaient, déjà une quarantaine de familles, eh bien, cette première favela ne sera pas la dernière, et nous aurons, dans 2 ans, dans 5 ans, nous aurons, autour de Paris, une ceinture de favelas. Voilà l'enjeu de l'affaire des Maliens. Alors, je sais que certains diront peut-être qu'une fois de plus, le Front National exagère, mais non. Parce qu'il ne fait qu'anticiper ce qui
comme
se passe.
Comme le Front National exagérait il y a 4 ans ou 5 ans ou 6 ans en disant « Attention, sida, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. »
Absolument. Mais même sur l'immigration, les gouvernants ont cessé de dire « L'immigration est arrêtée ». avant de reconnaître qu'elle se continuait. Et il vient de sortir un rapport très intéressant, demandé par le secrétaire général à l'intégration, M. Prévost, grande conscience de gauche. Le rapport Barou, dont Minute la France parle, qui est consacré à l'immigration noire africaine, et qui constate que non seulement elle ne s'est pas arrêtée, mais qu'elle a quadruplé en 15 ans, et que c'est une immigration qui pose des problèmes d'assimilation beaucoup plus considérables, d'intégration beaucoup plus considérables encore que les autres. Je me rappelle d'ailleurs l'an dernier, j'avais participé dans le cadre du Figaro Magazine à un débat où il y avait un certain nombre de bonnes consciences de gauche, ou de bon, comme l'ex-abbé Barrault, directeur de l'Office des Migrations Internationales, M. Kaltenbach, du Fonds d'Action Sociale, M. Damani, M. Slimane Zeghidour, et à un moment, ils avaient dit « Oh, les Maghrébins, on finira par les intégrer, mais les Noirs africains, ce sera impossible ou très difficile. » Et ce n'est pas le Front National qui avait dit ça, ce sont les autres. Eh bien, on sait tout cela, mais on laisse s'installer la première favela d'Île-de-France, et malheureusement, si un terme n'y est pas mis rapidement, eh bien, ce sera la première, mais ce ne sera pas la dernière. Il y avait une ceinture rouge, il y aura demain une ceinture de favela.
Alors, on peut peut-être parler, avant de revenir à cette menace, véritable menace, on peut peut-être parler de ce fameux rapport du groupe interministériel de réflexion sur l'immigration en France des ressortissants des pays d'Afrique noire, qui est paru au mois de juin,
oui.
Parce que c'est un rapport qui bouleverse tout le discours obligatoire consensuel sur l'immigration. Par exemple, c'est un rapport qui fait apparaître que il est faux de prétendre, comme tout le monde le fait automatiquement, que l'immigration est originaire des pays les plus défavorisés. C'est au contraire les pays les moins défavorisés, on peut pas dire les plus favorisés, on peut pas dire non plus les plus développés, les pays les moins sous-développés qui sont producteurs de d'émigration, c'est-à-dire pour nous d'immigration. Et c'est une véritable industrie, puisque au Mali, les Maliens eux-mêmes disent que l'émigration est leur pétrole. Autrement dit, il ne s'agit pas du tout, c'est très important, je crois, de comprendre cette dimension de l'immigration en France, parce qu'elle devrait donner, elle devrait retirer des arguments aux défenseurs, si j'ose dire, de la mauvaise conscience. Cette émigration est un phénomène économique, conscient et organisé, et non pas du tout une espèce de d'hémorragie de force qui serait imposée aux pays exportateurs.
Il donne un autre chiffre, Serge, c'est un Malien en France, avec toutes les aides dont il dispose, peut faire vivre 30 Maliens chez lui. Mmh. Donc on en sacrifie un, si j'ose dire, en l'envoyant dans le pays du racisme. Il ramasse suffisamment d'argent ensuite pour faire vivre toute la tribu, et à une dizaine, il peut faire vivre tout un village.
Alors, ce rapport, oui, alors, un auditeur, avant même d'aller plus loin, un auditeur dit, redoute que le mot de favela ne soit pas bien compris. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que une favela?
Oui, c'est une très bonne remarque. Bah, une favela, c'est un bidonville d'Amérique du Sud, et notamment des villes comme Rio sont entourées de favelas. C'est peut-être pour ça que le gratin de l'établissement mondial s'y était réuni, mais enfin pas dans les favelas, dans les grands hôtels, pour tenir le congrès sur l'environnement et sur la terre.
Il faut préciser, il y a une autre dimension dans les favelas qui est intéressante à rappeler, c'est qu'il ne s'agit pas de bidonvilles. C'est-à-dire, les bidonvilles, moi j'ai vécu dans ma petite enfance au milieu des bidonvilles, puisque j'habitais dans Nanterre, les bidonvilles étaient intégrés au tissu urbain en quelque sorte, c'est-à-dire que ils faisaient partie de la ville. C'était simplement des constructions précaires, mais qui faisaient partie de la ville. Tandis que les favelas sont de véritables enclaves dans lesquels, en tout cas à Rio, par exemple, on ne peut pas entrer.
Non, mais
il y a des
à Vincennes non plus.
Mais à Vincennes non plus, hein? On ne peut pas y aller. C'est vrai. À l'heure actuelle, on ne peut pas y aller. Et je regardais ce matin encore un article paru dans la presse de province. Alors, pour la première fois, ce journal attache une grande importance à la présence d'une espèce de favela qui était en réalité un campement nomade, parce que la voiture du rédacteur en chef de ce journal avait été volée, et sous ses yeux, volée sous ses yeux, et transportée sous ses yeux, alors qu'il poursuivait les voleurs avec un autre véhicule, dans un camp de nomades. Donc ce rédacteur en chef est allé chercher les policiers en disant, voilà, ils viennent de faire rentrer la voiture là-dedans, il faut aller chercher la voiture. Les flics ont dit, ah, non, nous on n'entre pas, la dernière fois qu'on a essayé d'entrer, ils nous ont tiré dessus, et d'ailleurs quand on s'approche, ils attendent même pas qu'on entre, ils nous tirent dessus, alors vous comprenez, il n'est pas question d'entrer dans cet endroit. Donc là, c'est ça la favela, c'est-à-dire c'est une enclave territoriale, un ghetto interdit aux nationaux, réservé à ceux qui, en quelque sorte, ont leur ticket d'entrée. C'est ce qui se passe à Vincennes, et c'est ce qui va se passer probablement ailleurs assez rapidement.
Bien sûr. Alors SOS Racisme, d'ailleurs, organise une manifestation samedi de la Nation à la République, ou de la République à la Nation, non, de la Nation à la République, pour soutenir le campement malien de Vincennes.
Quelle est l'origine de ce campement?
L'origine de ce campement, c'est quelques familles qui sont expulsées de Paris, quelques familles maliennes qui sont expulsées de Paris et qui squattent à Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois est une ville communiste qui présente la caractéristique d'être record de France de la fraude électorale. Et le maire de Fontenay a cette idée de génie, au fond un peu de rééditer l'opération d'une certaine manière, l'opération Bulldozer, l'opération d'Ivry,
et il leur dit... Où il faut rappeler, les communistes avaient fait boucher la porte d'un foyer d'immigrés avec un bulldozer. Ils avaient poussé de la terre devant la porte pour interdire l'accès.
Pour les pousser à aller vers d'autres villes. Donc le maire de Fontenay-sous-Bois prend les choses en main, et avec l'aide des services municipaux, du MRAB, de la CGT, installe ses premières familles à Vincennes, et leur assure la logistique. Et à partir de là, à partir de ce noyau, quelques dizaines de personnes, viennent quelques dizaines de familles, et puis quelques centaines de familles, puisque le Conseil des Maliens de France a procédé à un recensement au mois de juillet, où il a trouvé 1600 personnes avec 50 familles de plus de 10 enfants, donc très très nombreuses. Alors, avec plusieurs femmes, quand même.
Un auditeur nous dit d'ailleurs qu'il y a en réalité 16 nationalités dans ce campement.
Oui, alors on parle du campement malien, il y a en fait beaucoup de nationalités, j'ai vu le chiffre de 16 comme cet auditeur, je suis pas sûr qu'il soit tout à fait possible de les compter très exactement, c'est effectivement devenu un abcès de fixation. Alors ils ont déjà obtenu satisfaction, puisqu'il y a eu un accord qui a été passé en septembre entre l'un des représentants de ces Maliens et la préfecture d'Île-de-France pour reloger 35 familles. Ces 35 familles ont été relogées dans différentes mairies. Tous les maires ont fait preuve là de la parfaite hypocrisie. Le maire de Meudon et le maire d'Issy-les-Moulineaux ont dit mais non, faut pas les mettre chez nous parce que il y a une route qui passe à côté, ce serait dangereux. Les socialistes de Marne-la-Vallée ont même fait plus fort, y compris mon collègue président du groupe socialiste. Ils ont dit il ne faut pas les reloger là. Et ils se sont même couchés devant les bulldozers, sous l'œil des caméras qui, elles, étaient là. Ce qui ne les empêche pas de vouloir nous interdire de parler d'immigration au Conseil régional. Mais enfin, ils n'ont pas une contradiction près. Le maire de Viroflay a aussi fait savoir à l'élu Front National de la ville qu'il n'était pas d'accord, mais il n'empêche que il leur laisse amener, il leur fait amener l'eau, l'électricité et sans doute la télévision. ce qui prouve bien une espèce d'hypocrisie. Alors, ces Maliens sont partis, 35 familles ont donc été relogées, après qu'on les ait emmenés voir si ça leur convenait, etc. Mais les autres sont restés. Et puis, ceux qui se sont installés se sont aperçus que tout n'était pas parfait. C'est ainsi que ceux qui étaient à Villabé dans l'Essonne ont découvert qu'ils avaient des problèmes de transport. Certains d'entre eux travaillent, il y a des non-travailleurs mais aussi travailleurs, notamment dans les municipalités RPR comme Paris ou Neuilly, et ils ont dit au préfet, écoutez, c'est bien, mais nous sommes loin de notre travail. Et il faudrait faire quelque chose. Alors le préfet dit, pas de problème, voici des taxis, et tous les matins, il y a le taxi qui vient chercher les Maliens. Alors moi, je le dis, s'il y a parmi nos auditeurs des habitants de l'Essonne qui ont des problèmes de transport pour aller au travail, pas de problème, ils appellent la préfecture et ils demandent un taxi. Je pense qu'ils devraient l'avoir, parce que si le préfet refusait le taxi aux Français après l'accorder aux Maliens, il pourrait être poursuivi au titre de la loi antiraciste, ce qui serait même ennuyeux.
Oui.
Dans les Yvelines, c'est un peu différent. Là, ce sont les femmes qui se sont aperçues près de Rambouillet qu'elles étaient loin des grandes surfaces pour faire leurs courses. Pas de problème, la préfecture leur met à la disposition un minibus. Voilà. Alors là aussi, s'il y a des auditrices qui ont des problèmes de transport pour aller faire leurs courses, elles appellent le préfet des Yvelines, je pense qu'il mettra à leur disposition un minibus. Alors, tout ça est quand même tout à fait surréaliste.
Est-ce qu'ils ont droit au Concorde pour retourner au pays ?
Hélas, non. Et pour le moment, on en est encore aux moyens de transport terrestre. Malheureusement, nous, justement, nous voudrions, c'est notre slogan, des logements pour les Français, les charters pour les Maliens, on voudrait les faire passer des transports terrestres aux joies du transport aérien.
À ce propos, d'ailleurs, il y avait une très jolie lettre dans le Figaro qui me paraissait frappée au coin du bon sens.
Elle était très courte.
C'était un monsieur Monnier qui écrivait, il disait, moi j'ai l'idée d'un endroit où on pourrait reloger sans aucun problème les Maliens de Vincennes, c'est le Mali, point. Alors, ce qui est vraiment un témoignage de bon sens qui force l'admiration. Eh bien, il y a un autre lecteur du Figaro qui s'appelle M. Christophe Levallois, qui n'a rien à voir, je pense, avec notre ami Christophe Levallois qu'on reçoit parfois à cette émission quand il publie ses très bons livres. Alors, ce monsieur écrit « Quel scandale de laisser publier les propos de M. Monnier au sujet des Maliens de Vincennes !» N'oublions pas que la France a toujours été terre d'accueil et qu'aujourd'hui, des crétins tiennent des propos qui rappellent une période. Alors là, Monnier l'aide.
Monsieur pourrait peut-être en loger.
Mais alors, exactement, moi je vois Monsieur Levallois à Paris. C'est pas Monsieur Paris à Levallois, c'est Monsieur Christophe Levallois à Paris. On pourrait peut-être regarder dans le Minitel, voir Monsieur Christophe Levallois et lui téléphoner en lui disant, cher monsieur, nous avons quelques Maliens à loger. Moi, personnellement, j'ai pas de Maliens sous la main, mais je connais des Français, par exemple, qui cherchent des logements. Donc, s'il est prêt à loger des Maliens, comme c'est pas un raciste, il va être prêt à loger des Français. On pourrait lui envoyer des Français à loger. Pas 36, mais 2 ou 3. S'il a 3 pièces, bon, il utilise une pièce avec pour lui et sa femme peut-être. Il y en a 2 qui servent à rien. La nuit, elles sont vides. Le salon, c'est vide. La salle de bain est vide la nuit. Donc pourquoi pas loger quelques...
On y soit qui mal y pense.
Voilà. Ça me paraît une idée. Ce monsieur Levallois devrait prêcher d'exemple. Alors il y a un auditeur qui nous fait remarquer une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la question des impôts locaux. Il en a été question, je crois que c'est hier, il y avait une session au Conseil régional où a été évoquée la question de la fiscalité, notamment en ce qui concerne la gestion de l'emploi et l'usage qui est fait des prélèvements fiscaux et des taxes sur les entreprises de la région parisienne. Et cet auditeur nous dit, les impôts locaux ont subi une augmentation dans les sommes de 20,56%. Évidemment, s'il faut payer le taxi tous les matins, le préfet sort pas l'argent de sa poche. Et dans la région, de 20,37%. C'est vous confirmez ces chiffres, Jean-Yves Le Gallou ?
Peut-être pas à la virgule. Et ce qu'on voit sur les feuilles d'impôts et la somme, effectivement, les feuilles d'impôts locaux, les impôts communaux, les impôts départementaux et les impôts régionaux, mais ce sont des impôts qui augmentent en moyenne, et en Île-de-France c'est plutôt un peu plus élevé en ce moment, en moyenne de 12% par an. Hein ? Et l'ensemble des dépenses des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions, c'est 800 milliards de francs, c'est-à-dire 2,5 fois l'impôt sur le revenu. Il faut bien voir que les contribuables comprennent que l'impôt local qu'ils voient, c'est-à-dire la taxe d'habitation ou la taxe foncière s'ils sont propriétaires, plus les taxes professionnelles, mais les impôts que les gens payent, que les ménages payent, taxe foncière, taxe d'habitation, ça ne représente que 10% des dépenses des collectivités locales. C'est-à-dire que quand les gens payent 2000 francs, il faut savoir qu'en réalité, la commune, le département ou la région dépense 20 000 francs. Alors évidemment, avec ça, le maire peut, il peut inviter les personnes âgées à des repas, il peut faire toute une politique de clientélisme. Il faut bien savoir que la technique consiste pour les maires à se constituer des clientèles grâce à l'argent qu'ils prélèvent sur le dos des contribuables. Et je dois dire que nous avons le plus grand mal dans les assemblées où nous siégeons, le Front National, à nous opposer aux hausses d'impôts que les exécutifs nous proposent de manière systématiquement et répétitive. Et en ce qui concerne la région où nous siégeons, où nous sommes représentés par le deuxième groupe en ordre d'importance, eh bien, on nous propose très couramment des augmentations de 15 à 20%. Je signale aussi dans les impôts locaux, il y a la taxe sur les cartes grises quand on achète une voiture, la taxe sur les permis de conduire qui frappe les jeunes, ou la vignette. La vignette, j'avais l'an dernier attiré l'attention des électeurs des Hauts-de-Seine sur le fait que la vignette Pasqua servait exclusivement à financer les dépenses de propagande du Conseil Général. Exclusivement la vignette.
C'est dire la dépense de propagande, permet. C'est la brochure, c'est l'affiche.
C'est la brochure, c'est le journal qui est mis dans les kiosques alors qu'il n'est pas vendu.
C'est
la radio qui est financée, qui fait des placards, la radio FM 92 devenue 99, passons, qui fait des placards 4 par 3 avec l'argent du Conseil Général.
Ça coûte une fortune.
Ça coûte une fortune. Bien. Alors tout ça, et puis l'immigration bien entendu, car tous ces conseils généraux, que ce soit RPR, UDF, PS ou PC, ça ne change rien, c'est pareil, financent ce qu'on appelle les opérations développement social des quartiers, c'est-à-dire la réhabilitation d'un certain nombre d'immeubles, ce qui peut être justifié, mais aussi le financement des associations d'immigrés qui habitent ces immeubles et qui sont financées par tous les conseils généraux. Il y a en Ile-de-France 8 conseils généraux. Il y en a 2 qui sont communistes, mais les 6 autres sont RPR et UDF, et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence. Donc il faut savoir que les gens financent l'immigration. La manifestation de samedi de soutien aux Maliens de Vincennes, faite par SOS Racisme, c'est payé par le contribuable, puisque SOS Racisme est une association financée par le contribuable et à hauteur de plusieurs millions de francs. Donc les gens payent, tout le monde paye. Pour ceux qui ne voudraient pas voir.
Mais vous dites que l'impôt ne rapporte que 80 milliards sur les 800 qu'il dépense annuellement. Où trouve-t-il le reste?
Alors, par l'emprunt. J'ai parlé là de l'impôt sur les ménages, si vous voulez. Vous avez comme autre recette la taxe professionnelle, qui est prise sur les entreprises. Et puis, vous avez toute une série de dotations de l'État, qui sont extrêmement importantes. Les communes reçoivent plus d'argent de l'État que de leurs propres contribuables. Mais l'État, lui, l'argent, d'où le tire-t-il? Bien, il le tire tout simplement des impôts nationaux. C'est-à-dire que vous avez dans les recettes communales 4 types de recettes. Les impôts communaux que les gens voient, les impôts d'État qu'ils ne voient pas, quelques recettes de poche, il faut entrer et payer le prix de la piscine ou de la cantine scolaire, et puis les emprunts. Mais si vous voulez, la part d'impôt national redonnée aux communes est plus importante que la part prélevée directement par les communes sur le contribuable. Je dis les communes, mais je pourrais dire la même chose pour les départements, pour la région.
On sait combien représentent les emprunts, parce que c'est ça qui est intéressant, ça risque d'obérer complètement l'avenir.
Écoutez, je peux pas vous donner le chiffre global pour les emprunts.
Parce que quand on voit les surendettés comme Avignon, Nîmes...
Il est courant que des villes aient 5, 8, 10 000 francs de dette par habitant. Ce qui est tout à fait considérable.
Je crois que c'est Chénardy hier qui a, Jean-Pierre Chénardy, qui est élu du Conseil régional et qui a fait un topo sur, justement, la politique de l'emploi. Dans le conseil, du Conseil régional d'Île-de-France, où il a mis en évidence le côté que vous parliez de surréalisme tout à l'heure, il y a même c'est pire que du surréalisme, c'est carrément de la démence. Les prélèvements à travers la taxe professionnelle, etc., tous les prélèvements sur les entreprises, donc ce sont de l'argent qu'on retire aux entreprises.
Tout à fait.
Ce qui les met dans de telles difficultés qu'il faut savoir qu'au bout de 5 ans, en moyenne, 60% des entreprises créées ont disparu. C'est-à-dire qu'il reste 40%, 4 entreprises sur 10 survivent après 5 ans, les autres sont mortes, faute de moyens. Et cet argent sert à financer un fonds d'aide aux entreprises, c'est-à-dire qu'on prend des impôts aux entreprises, et quand elles sont en train de crever, on leur dit « mais on va vous aider, on va vous donner des conseils, figurez-vous ». Alors on paye des fonctionnaires qui vont voir les entreprises et qui leur disent « mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, nous qui sommes fonctionnaires, on va vous expliquer comment on fait tourner une entreprise privée ». C'est de la démence.
Et on coupe la jambe et on rembourse avec une béquille.
C'est intéressant parce que ce type d'aide, le Front National avait obtenu leur suppression de 86 et 88, lorsque l'exécutif RPA-UDF avait besoin de nos voix. On fait les majorités avec nos voix. Et puis, à partir de 88, ils se sont tournés du côté du Parti Socialiste, et tout ça a été rétabli.
Ouais. Voilà. Mais vous qui êtes complètement dans le monstre, puisque vous êtes président du groupe Front National au Conseil Régional Île-de-France, comment expliquez-vous cette espèce d'aveuglement des élus, parce que, enfin, les élus, c'est quand même l'émanation du peuple dans l'acception normale de la démocratie.
Mais, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a un double langage. C'est-à-dire que ce que les élus RPA ou UDF disent à leurs électeurs n'est pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils tiennent un discours à leurs électeurs, ils tiennent un autre discours en assemblée, et leur action est encore différente. Et par conséquent, il ne faut pas juger ces gens-là sur leurs paroles, mais sur leurs actes. Qu'ont-ils voté? Bon, on parlait de l'immigration tout à l'heure. Bien, il faut voir que l'acte essentiel de la situation actuelle, c'est la carte de séjour et de travail de 10 ans automatiquement renouvelable, votée en 1984, à l'unanimité de l'Assemblée nationale, RPR, UDF, PS, PC. Et hier, voyez-vous, nous avons parlé aussi, lors de ce débat sur l'emploi au Conseil régional, nous avons parlé d'immigration. Mais cela n'a pas plu au président RPR, qui est soucieux de plaire maintenant, après avoir plu aux socialistes, aux écologistes, dont certains sont des éléments gauchistes, et lui a fait savoir qu'il était en désaccord avec nous et qu'il était partisan d'une politique d'accueil plus grande encore.
Qui est ce
Monsieur Giraud.
Monsieur Giraud, qui est donc
qui est l'émanation de la majorité RPR du Conseil régional. Bien, le président du groupe RPR étant Monsieur Pendreau. Bien, et Monsieur Pendreau dit à ses électeurs de Seine-Saint-Denis des propos tout à fait différents. Mais ce qui compte, ce sont les actes.
Quand Monsieur Pendreau
et les
répond,
actes, les actes vont toujours dans le sens d'une plus grande ouverture à l'immigration.
Quand Monsieur Pendreau répond à une interview dans Minute la France, il tient des propos qui sont des propos que pourrait entériner n'importe quel élu du Front National. Sans
oui, tout à fait. Mais quand un élu du Front National tient des propos de ce type à l'Assemblée régionale, le président RPR les condamne.
Alors, il y a un aspect qui est tout à fait intéressant aussi à propos de l'immigration noire africaine, c'est l'affaire du regroupement familial. Un auditeur nous dit, effectivement, vous vous rappelez que la majorité, ou la prétendue majorité RPR-UDF, est à l'origine à peu près de toutes les dispositions légales qui ont été prises en faveur de l'immigration.
Oui, mais les socialistes ont aussi leur contribution.
Les socialistes y ont apporté leur contribution tardive, mais efficace. Mais cet auditeur dit, oui, vous devriez rappeler que le regroupement familial, c'est une idée qui a été mise en place au moment où Valéry Giscard d'Estaing était président de la République.
Et Jacques Chirac, premier ministre.
Or, le rapport...
Poniatowski, ministre de l'Intérieur.
Le rapport dont on parle, ce rapport du groupe interministériel de réflexion sur l'immigration en France des ressortissants des pays d'Afrique noire, dit d'une façon absolument claire que l'une des pompes à immigration les plus efficaces en ce qui concerne l'Afrique noire, c'est le regroupement familial. Parce que, tout simplement, dans une famille normale, je dirais, une famille normalement constituée, selon nos critères occidentaux, l'homme qui vient travailler en France, eh bien, il fait venir sa femme, et puis c'est 2, 3, 4, 5 enfants. Mais, suivant les critères africains, l'Africain qui vient travailler en France, il fait venir sa femme, il fait venir sa femme, sa première concubine, sa deuxième concubine, et 8, 9, 10, 12 enfants, sans compter les enfants que les et trois alors, femmes vont
y a,
avoir.
Il y a aussi l'aspect, si vous voulez, c'est là aussi que l'autre grande erreur, c'est la non-réforme du code de la nationalité, c'est que si le père ou la mère est né avant 1961, ce qui est encore assez souvent le cas du père, peut-être moins de la mère maintenant, l'enfant qui naît en France, il naît français. Et à partir de ce moment-là, il ouvre des droits à de nouveaux regroupements familiaux. Parce que sa grand-mère ou son oncle ou son cousin sont des cousins ou des oncles ou des grands-parents d'un ressortissant français. Enfin, français, malien au lieu de au regard de la législation malienne, mais français au regard de la législation française. Je dis malien, ça pourrait être une autre nationalité, hein. Mais c'est un petit peu là le symbole actuel.
Pardon, je vous ai coupé, allez-y.
Oui, ben, je présenterai peut-être dans le cours du débat aussi ce que nous allons
faire.
Oui,
c'est ce que j'allais vous demander, mais avant, je voulais quand même faire remarquer une chose, c'est que vous parliez de surréalisme. Alors, il y a des aspects mineurs de cette affaire qui sont complètement surréalistes. Par exemple, une auditrice nous dit qu'on a demandé cet été pour les femmes maliennes du camp de Vincennes du personnel féminin pour servir d'aide ménagère à ces femmes maliennes. C'est complètement extravagant. Elles ne travaillent pas, elles sont là sur place avec leurs méthodes, leurs habitudes de gestion de la famille, qui est une gestion de famille totalement étrangère à nos critères à nous, comme je le disais tout à l'heure, et on prétendait leur envoyer...
En général, d'ailleurs, la jeune femme prise comme deuxième ou troisième femme est là pour aider la première. Ce fait que la première accepte relativement bien le système qui présente au moins quelques avantages à côté de quelques inconvénients, sans doute.
Alors, cette auditrice dit que, quand même, là, le personnel a refusé, en disant, non, c'est les femmes maliennes, donc ça a faire de s'occuper de leurs enfants.
Hein, non, mais je crois vraiment qu'il y a... Alors, ce qui était tout à fait étonnant dans la situation, et là, c'était assez intéressant, c'est que les élites dirigeantes sont conscientes. C'est-à-dire que les maires, les préfets, les ministres, Monsieur Kofi Annan a déclaré à propos de cette affaire que l'occupation de Vincennes était illégale et illégitime. Donc les maires, les ministres, les préfets sont conscients de la situation. Je dois dire que le rapport Barou qu'on citait les éclaire s'ils ne l'étaient pas déjà. Oui. Mais en même temps, et ça c'est tout à fait intéressant, en même temps qu'ils sont conscients de la situation, eh bien ils continuent d'aller dans le sens de l'aggravation. Et pourquoi ne font-ils rien? Parce qu'ils vivent sous la terreur des médias. Quand les Argentins envahissent les Malouines, Madame Thatcher décide de les récupérer. Il y a un croiseur argentin, vieillot d'ailleurs, qui croise à 800 milles du site. Elle donne l'ordre de le couler par un sous-marin nucléaire d'attaque, et quelques minutes plus tard, le bateau est coulé, et il y a 800 gamins argentins qui meurent gelés dans l'Atlantique Sud. C'est pas grave. Il n'y a pas de caméra pour le voir. Bon. Lorsque M. Saddam Hussein envahit le Koweït, et que M. Bush décide d'arrêter cette invasion, cette occupation, il tapisse Bagdad de bombes. C'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de caméra pour m'en voir, en tout cas pas de télévision pour montrer les petits-enfants irakiens sous les bombes. Donc on peut faire ce qu'on veut, en cas d'invasion guerrière. Une invasion pacifique, bon, mais on se dit, si jamais un seul petit-enfant malien était, ne serait-ce que bousculé par des CRS qui feraient une opération de maintien de l'ordre en application d'une décision de justice, et alors que ces gens utilisent leurs propres enfants comme otages, en fait, eh bien, à ce moment-là, ce serait le scandale des scandales, oui, mais... ce serait le 20h, c'est un peu le syndrome Malik Houssekine. Oui, mais... Ce qui fait que ces gens-là, les gens qui gouvernent, ils sont conscients de la réalité, mais ils n'ont aucunement le courage de prendre les mesures qui s'imposent. Et alors, les hommes politiques sont encore plus hypocrites, parce qu'ils ne vont pas hésiter. Le maire de Vincennes a tenu des propos très durs, ce qui ne l'avait pas empêché de voter en son temps la carte de séjour et de travail de 10 ans, de voter le rapport Thiroux, de voter les accords de Schengen et de laisser l'eau au campement malien. Donc il y a un discours. Alors l'électeur de Vincennes se dit quand même, le maire, il est bien. Il est bien, mais il ne fait rien. Et il sait qu'il ne fait rien.
Mais est-ce qu'il a le pouvoir légal d'agir, là ?
Oui. Oui, un maire quand même contrôle ses réseaux.
Un auditeur nous fait remarquer d'ailleurs une chose, c'est vrai que quand les infirmières s'étaient installées dans un campement aussi devant le ministère de la Santé...
Elles l'ont repris d'ailleurs, je viens de les voir en venant.
Eh bien, on avait envoyé les CRS pour les chasser, et d'ailleurs on les avait chassés, en leur mettant un excès d'eau, puisqu'on les avait chassés avec la pompe à incendie.
Absolument, oui.
Effectivement, là, on voit très très bien que l'attitude du pouvoir, c'est pas du tout une attitude qui est liée au respect d'une loi.
D'ailleurs, les agriculteurs sont réprimés. Les routiers, on a envoyé les chars contre les routiers. N'est-ce pas ? Le gouvernement socialiste a envoyé les chars contre les routiers.
Et alors, toujours dans le domaine du surréalisme total,
il envoie les chars aux routiers et les taxis aux maliens.
Les taxis aux maliens. Belle formule. Les chars pour les routiers, les taxis pour les maliens. Mais dans le domaine du surréalisme, il y a encore un exemple qui date de ce matin, c'est que on a appris ce matin que une réserve budgétaire avait été aménagée de 4 milliards pour adoucir le poids de la dette de 4 pays africains. Alors, on apprenait avant-hier que les victimes des inondations de Vaison-la-Romaine n'ont encore pratiquement rien touché.
Elles n'auront rien. Là, j'ai des informations. Le Conseil général RPR a débloqué 50 millions de francs pour toutes les victimes de ce déluge. Et l'État n'a rien envoyé, zéro. Alors, on a vu que Kouchner s'agiter à la télé en prétendant décrocher 2 millions de francs avec la timbale. Ils n'ont rien envoyé. Et il n'y aura rien, d'ailleurs. Il n'y aura rien. Il faut que les gens sachent.
Avoir Kouchner, c'est déjà en soi un réconfort.
Il s'est fait jeter par les gens. Et c'est surtout nous qui l'avons eu à la télé. Hein. Mais les gens de là-bas ne l'ont pas vu.
Alors, donc on est dans cette situation qui est folle. C'est-à-dire que, enfin, on revient à la vieille histoire cartiériste, le Zambèze avant la Corrèze. On donne de l'argent aux Africains, ce qui normalement devrait avoir pour effet de limiter l'émigration, puisqu'on les aide, on leur donne de l'argent. Eh bien, normalement, ça devrait les convaincre qu'il faut qu'ils gardent leur force vive.
Vous savez quelle est la plus belle définition de la coopération ? La coopération internationale et la coopération de développement, c'est une belle idée. La réalité, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la coopération telle que ça fonctionne, ça consiste à prendre de l'argent aux pauvres des pays riches pour le donner aux riches des pays pauvres, qui en redonne tout de même une partie aux riches des pays riches. C'est ça la coopération telle que ça fonctionne.
C'est exactement ça.
Et ça n'aide pas le développement, parce que ce qui d'ailleurs pourrait aider le mieux le développement, c'est un développement sur place. Il faut bien voir que la grande folie du libre-échange, c'est-à-dire la libre circulation des hommes, des marchandises, ça peut apporter des choses positives quand c'est entre pays comparables. Bon, quand on crée un marché à l'échelle avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec l'Italie, ça permet de développer les économies. On observe d'ailleurs que les hommes circulent assez peu. Vous voyez peu d'Allemands venir s'installer en France et peu de Français s'installer en Allemagne ou en Angleterre. Bon, il y a ceux qui doivent y aller, mais pour des missions finalement assez limitées. Ça peut fonctionner correctement. Parce que c'est des économies, des cultures comparables. Mais quand on branche ensemble des économies radicalement différentes, on crée des perturbations considérables. Et de ce point de vue-là, tous les mécanismes d'aide aboutissent souvent à tuer les cultures vivrières de ces pays au profit de cultures spéculatives qui n'ont pas du tout le même intérêt dans la perspective du développement de ces pays-là.
Alors, on va, pour finir, voir ce que le Front veut faire à propos de cette affaire de Vincennes, précisément. Mais avant, je voudrais quand même, pour montrer à nos auditeurs comment fonctionne une certaine presse, je voudrais donner lecture d'une partie de cette revue de presse qui est réalisée par Fraisse du Front National, qui est un document extrêmement précieux, malheureusement pour des raisons économiques réservées à quelques privilégiés, dont nous honorons de faire partie. Voilà comment la chose est présentée. Je donnerai simplement les titres. Dans le quotidien, logement, offensive lepéniste contre les Maliens de Vincennes. Dans le Parisien, le Front National dénonce les Maliens de Vincennes. dans le Figaro, tout petit papier, immigration, le Front National réclame des charters pour les Maliens, et dans les Échos, le Front National et l'opération Bamako. Alors écoutez, il y a le petit papier, très très court papier des Échos, je vais vous le lire parce que vous allez voir comment fonctionne la désinformation en réalité, et à quel point elle peut être vicieuse et sournoise. Pour fêter le 20e anniversaire de sa création.
Rien à voir.
Ça n'a évidemment rien à voir. Bon, alors, le Front National a appelé hier ses élus et ses militants d'Île-de-France à une manifestation baptisée Opération Bamako, devant le ministère du Logement, en faveur de la préférence nationale. En fait, une centaine de personnes se sont rendues au ministère de la Ville pour protester contre le relogement des Maliens de Vincennes. Ce ministère n'est pas compétent sur ce dossier. Bon, alors... Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que les gens du Front National sont des imbéciles qui vont manifester devant un ministère qui n'est pas compétent. C'est ce qu'il voudrait insinuer l'auteur de ce petit écho. Mais la réalité, c'est que le lecteur qui lit ça, qui est pourvu d'un minimum de matière cérébrale, il dit, mais au fait, alors, si le ministère de la Ville n'est pas compétent sur ce dossier, alors que le ministère de la Ville a été inventé pour régler les problèmes liés à l'urbanisation et à l'immigration.
Bien évidemment.
Alors, si le ministère de la Ville n'est pas compétent, à quoi sert-il?
Absolument.
C'est, bon, en fait, l'objet de la manifestation est parfaitement atteint, puisqu'il démontre que les structures mises en place par l'État, par la bureaucratie socialiste, sont des structures totalement incompétentes, c'est absolument le cas de le dire, et inefficaces. Et, deuxième observation, vous avez remarqué que offensive lepéniste contre les Maliens de Vincennes, le Front National dénonce les Maliens de Vincennes, c'est évidemment toujours cette vieille histoire, le Front National est contre les immigrés, ce qui est absolument faux, le Front National est contre l'immigration, c'est absolument, pas du tout.
D'ailleurs, nous n'avons pas manifesté à Vincennes, mais devant un bâtiment public, ce qui est tout à fait clair, que nous citons les responsabilités au niveau du gouvernement.
Hein? Alors, comment faire? Quels sont les moyens dont on dispose?
Écoutez, nous allons engager une campagne d'information et de sensibilisation. Alors, avec les moyens dont nous disposons, c'est-à-dire que les tracts, puisque c'est les tracts, les affiches. Pour le moment, nous avons une campagne de tracts qui est engagée, un petit peu illustrée avec l'exemple des taxis, avec des déclarations d'un des porte-parole des Maliens, Monsieur Biougou Djouawara, qui avait dit au mensuel
interview,
la France c'est de la merde.
Bon, donc c'est vrai que ça le qualifie vraiment bien pour être
des tracts illustrés. Ça c'est la première chose. Ensuite, un certain nombre d'opérations symboliques. Nous avons fait la première lundi dernier. Nous n'étions pas une centaine, mais quelques centaines, c'est pas une grosse manifestation, puisqu'il n'y avait eu aucune annonce officielle, c'est simplement une opération bouche à oreille, par le téléphone arabe, en quelque sorte.
Comme quoi,
ça peut être utile. Bien. Et une veille symbolique devant ce ministère, veille symbolique pour les mal logés français, avec, là aussi c'était symbolique, la construction d'une tente et d'une petite maison. Voilà, ça c'était tout à fait symbolique. Nous allons recommencer lundi prochain à la même heure, à 17h30, devant le ministère de la Ville. Là j'invite tous les auditeurs qui sont motivés à venir. Lundi prochain à 17h30 devant le ministère de la Ville, 246 boulevard Saint-Germain, nouvelle présence symbolique. Et puis on engagera d'autres actions, mais dans ces domaines, il faut faire preuve de souplesse et d'imagination, donc on verra en fonction des circonstances ce qui nous permet de nous faire entendre de la manière la plus performante possible. Il est possible que nous soyons amenés, mais ça je ne peux pas encore le dire, ce n'est pas décidé, nous soyons amenés à faire soit un grand meeting, soit une grande manifestation, ça je ne sais pas encore, mais nous allons continuer la campagne tant que les Maliens de Vincennes seront là et bénéficieront des privilèges dont ils bénéficient. Je dois dire que je crains quand même que ça dure, parce que comme je ne plaignais auprès d'une télévision qui m'a envoyé des caméras mais qui n'a pas passé d'image de cela, on m'a dit « écoutez, ne soyez pas inquiets, d'ici les législatives, nous aurons l'occasion d'en reparler ». Nous n'avons pas fait ça spécialement en pensant aux législatives. Ouais. Alors j'ai dit à mon interlocutrice, écoutez, tout de même, j'espère qu'ils seront partis avant les législatives. Elle m'a dit, oh, vous croyez?
Oui. Voilà, c'est moi, elle est lucide.
Un petit peu, oui, à moi, elle est lucide.
Bon, voilà. Alors, deux auditeurs téléphonent pour dire, oui, et tout ça, vous nous parlez des malheurs de la France, c'est très joli. À quoi sert-il de réciter les litanies des malheurs de la France si vous n'envisagez pas d'action? Alors, il dit un coup d'État, mais pas, un parti démocratique ne peut pas envisager
un coup d'État. Notre vocation.
Voilà. Voilà. Un autre auditeur dit, ce que nous souhaitons entendre, ce sont des propositions constructives et concrètes que proposez-vous. Alors, je voudrais dire à cet auditeur que il y a un programme du Front National, au cas où il ignorerait, parce que je sais bien que les évêques de France, on va en parler tout à l'heure, prétendent qu'il n'y a pas de programme du Front National, mais il y en a un, il a été imprimé sous plusieurs formes, et il y a notamment toute une série de propositions constructives sur la façon de résoudre la question de l'immigration. Je dirais pour résumer, je crois qu'on peut résumer rapidement, il faut inverser le flux migratoire, c'est-à-dire, premièrement, supprimer toutes les pompes à immigration, autrement dit, supprimer par exemple ce fait qui relève de la démence pure, qui est que une aide au développement démographique des nationaux, comme les allocations familiales, est versée aux étrangers, ce qui est de la folie, mais de la folie, littéralement.
Aux familles polygames.
Aux familles polygames. Donc ça, par exemple, il faut que ça s'arrête. Et puis, il y a une aide sur place pour les pays, mais une aide à la japonaise, je dirais, pas à la française comme elle est faite aujourd'hui, et dont Jean-Yves Le Gallou disait à l'instant fort justement que c'était l'argent des pauvres des pays riches qui servait à financer les folies des riches des pays pauvres. Les japonais, eux, travaillent autrement. Ils disent aux Africains, de quoi avez-vous besoin? 10 maisons? Eh bien, c'est très bien, on vous envoie du matériel, des techniciens, et ils vont construire les 10 maisons. Voilà. Il n'est pas question de vous donner 10 millions de francs pour construire 10 maisons à 1 million de francs, parce qu'on sait très bien que ces 10 millions de francs vont foutre le camp directement sur le compte du président de la pseudo-république bananière en Suisse. Voilà. Donc, aider réellement les pays africains et les pays sous-développés à assumer leurs problèmes sur place et non pas en exportant leur jeunesse, ce qui est d'abord aberrant et inacceptable sur le plan simplement humain. Alors ce programme, il est disponible, je crois, Jean-Yves, que vous avez fait de nombreuses brochures et livres sur la question.
Donc il s'adresse... Cet auditeur peut écrire 57 rue de Babylone au Conseil général de l'Île-de-France et me demander toute la documentation qu'il souhaite sur les positions du Front National sur l'immigration. C'est tout à fait complet. Encore faut-il que nous ayons les possibilités de pouvoir et les possibilités législatives de les mettre en œuvre.
Une auditrice demande où peut-on avoir un tableau comparatif pour les départements français des taxes d'habitation et foncières. Est-ce que ça existe?
Oui, avec 2 à 3 ans de retard, je dispose de ça pour les régions. Le ministère de l'Intérieur sort des statistiques, mais qui ont 3 ans de retard. Et la documentation française. La documentation française, il y a des guides statistiques des impôts locaux. Mais il y a un décalage de 2 à 3 ans.
La documentation française, c'est à quelle adresse?
C'est sur les quais de la Seine.
C'est le quai Voltaire,
je crois. Quai Voltaire, voilà, quai Voltaire.
Le 24, il me semble.
Jean-Yves Le Gallou, merci, et je profite de cet entretien pour rappeler que dans le numéro de Minute la France paru ce matin, il y a un grand papier d'Éric Letty sur le fameux rapport sur l'immigration africaine en France. Et c'est vraiment un rapport qui est effrayant, il faut bien dire le mot, parce qu'il met en avant d'une part le fait que, comme vous le disiez, cette immigration a été multipliée par 4 depuis l'arrêt officiel de l'immigration. Alors qu'est-ce que ça aurait été si on n'avait pas arrêté officiellement l'immigration? Mais deuxièmement, c'est pas moi qui le dis, ce sont les auteurs du rapport, cette immigration noire africaine, elle est absolument inintégrable.
Et une auditrice rappelle que c'est l'abbé Pierre qui organise l'organisation de soutien aux Maliens.
Oui. Oui, oh, bah, que ne fait pas l'abbé Pierre.
Merci, avec l'argent de cette dame. Puisque l'abbé Pierre, quand on dit l'abbé Pierre, reloge.
Oui,
c'est très... Mais il reloge, c'est pas avec l'argent de l'abbé Pierre. Qui dépense en costume, l'argent des subventions de l'État, tout simplement, et des collectivités locales. Que l'abbé Pierre fait la charité avec notre argent, comme oui. M. Kouchner d'ailleurs.
Comme M. Kouchner.
On peut faire nous-mêmes la charité avec notre propre argent, c'est un principe infiniment plus sain.
Merci Jean-Yves.
Merci.
Et à bientôt pour ces questions-là et d'autres questions qui sont de votre compétence. J'avais dit qu'on parlerait de Credo, alors effectivement on va en parler. Donc Credo publie un numéro spécial qui est en vente au prix très exceptionnel de 30 francs, mais je vous assure que vous ne perdrez pas votre argent, qui est intitulé « Les évêques de France face au nationalisme ». savoir que pendant des années, l'épiscopat français a observé, on le sait très bien, un silence absolu, et on dirait même un silence complice, à l'égard de tout ce qui était subversion socialiste et communiste. Et on a même, c'est pas moi qui ai dit ce mot-là, c'est De Courtrai, évêque, qui a parlé de connivence. Bon, ensuite, il est revenu sur ses propos, parce qu'il s'était aperçu qu'il avait été un peu rapide à dire la vérité. Mais il y a eu réellement une connivence entre l'épiscopat et le système de pensée marxiste, socialo-communiste. Il y a une connivence aussi avec ce qu'on appelle la libéralisation des mœurs, qui est en réalité un avilissement, un avilissement, un abaissement des mœurs. Notamment, on l'a vu la semaine dernière avec cet extrait d'interview de Maillard de la Morandais, qui est un abbé, que je citais, interview à Libération, dans laquelle, à la question de son attitude à l'égard de l'avortement, Maillard de la Morandais répondait « Je ne roule pour aucun lobby moralisateur ». Ce qui veut dire en bon français, parce que ces crétins-là ne parlent pas le français, ce qui veut dire « Je ne suis pas contre l'avortement ». C'est évident. Je ne m'associe à aucune initiative qui voudrait interdire l'avortement au nom de la morale. Je voudrais dire à ce curé que c'est pas au nom de la morale qu'on est contre l'avortement, c'est au nom de la vie. C'est pas tout à fait la même chose. C'est quand même un peu plus important. La morale, c'est une chose qui est essentiellement variable. Il y a des morales différentes selon les époques et selon les lieux, mais il y a une chose qui n'est pas variable, c'est la vie. Et quand vous enfilez une sonde avorteuse, eh bien vous tuez un bébé. Je sais bien, moi je voudrais que ce curé vienne me dire en face qu'il est d'accord avec cet assassinat. Ça serait quand même intéressant. Je me demande ce qu'il fout dans ce métier. Il a qu'à installer un bureau, un cabinet de voyance ou un cabinet de parapsychologie, et puis ça sera aussi efficace. Mais tout ça ne se passe pas sans la complicité de l'épiscopat. C'est quand même les patrons, c'est les chefs d'entreprise de l'église conciliaire, ces gens-là. Et c'est eux qui ont toléré tout ça, et c'est eux qui le portent en avant. Et puis d'un seul coup, et tout ça dans un silence absolu, ils ne parlent jamais de politique, n'est-ce pas? On ne parle pas de politique. Puis d'un seul coup, au moment des élections cantonales et régionales à la fin 91, alors là on a vu tout ce petit monde sortir des trous et commencer à se manifester en disant « Là 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 là, mais c'est épouvantable, vous rendez compte, il y a un parti raciste, xénophobe, faire très attention, c'est le Front National. » Donc les chrétiens ne peuvent pas être nationalistes, ils ne peuvent pas voter pour le Front National, etc. Ils peuvent d'ailleurs pas du tout être nationalistes, puisque on nous explique à longueur de page, dans des documents épiscopaux, s'il vous plaît, c'est pas rien, que le nationalisme c'est une chose abominable, je sais jamais si c'est Duval ou Delaporte, enfin un des deux dit que c'est des tribus, qu'on se comporte comme des tribus. Je vous signale d'ailleurs entre nous que ce mot de tribu pourrait être très mal pris par des gens qui sont justement une communauté constituée en tribu, et pourraient trouver que c'est vraiment insultant de faire adhérer l'idée de tribu à l'idée de sous-développement intellectuel. Hein. Il faudrait que j'attire l'attention de Duval là-dessus. Vous savez, il y a des tribus, finalement, il y a peut-être des tribus qui valent mieux que les autres. On ne sait pas, ça pourrait exister, ça. Alors, les gens de Credo ont eu une idée, il y a maintenant, je crois, à peu près un an. Et cette idée, c'était de dire, enfin, pas tout à fait un an, 6 mois, il faudrait quand même savoir ce que nos évêques ont à dire précisément sur cette histoire. Alors, on va leur écrire une lettre dans laquelle on leur dit, ils ont écrit donc à 93 évêques, ils ont fait écrire à 93 évêques, premièrement, quelles sont celles des 50 propositions du Front National qui vous paraîtraient contraires à l'esprit de l'Évangile? Deuxièmement, quels sont les textes de l'Écriture ou les points de la doctrine constante de l'Église avec lesquels les thèses de la droite nationale vous sembleraient en contradiction? Et troisièmement, quelles sont les valeurs auquel un candidat devrait se référer pour emporter les suffrages d'un catholique. Bon, je trouve que c'est une attitude normale pour un catholique conciliaire ou pas d'ailleurs, de se tourner vers son évêque en disant « Bon, l'évêque, c'est bien joli votre histoire, mais qu'est-ce que je fais, moi, là-dedans » Vous me dites que on peut pas être à la fois nationaliste et chrétien. Alors, pourquoi? Expliquez-moi. Alors, il y a les réponses. Et le bilan de ces réponses. Je ne vais pas vous les donner, elles sont toutes dans ce document. C'est un document historique. Je ne crains pas de le dire. C'est un document historique, le numéro spécial de Credo. Parce que les réponses, elles sont là. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Qu'est-ce qu'ils montrent? Eh bien, ils montrent que dans leur immense majorité, on va me passer l'expression, ce sont des crétins analphabètes, des hypocrites, des sépulcres blanchis. Parce que ils ne répondent pas. L'abbé Coache dit, la phrase est citée dans Credo, il dit « Comme d'habitude, les évêques évitent d'exprimer une opinion personnelle. Toujours cette peur de s'engager afin de ménager l'opinion et la conférence épiscopale. Et ils sont bien loin de ce oui ou de ce non qui manifesterait franchement ou contredirait la foi catholique. Alors que l'évêque est consacré pour soutenir la parole de Jésus et la vérité, il préfère trahir, car c'est trahir que se dérober, dans sa charge, à un devoir si grave. À Jérusalem, le vendredi saint, écoutez bien ça, cette phrase, elle est terrible. À Jérusalem, le vendredi saint, ils auraient refusé de prendre parti par prudence ou pour ne pas attenter à la liberté du peuple. » Voilà, ça c'est un propos de l'abbé Coache dans Combat de la foi. Et alors, Credo dit, mais au fond, de quoi ont-ils peur, ces évêques? Et il répond, nos évêques, lorsque nous leur demandons d'intervenir à propos d'un film qui, par exemple, outrage la Sainte Vierge, ou d'une affiche blasphématoire, répondent, quand ils daignent le faire, qu'il ne faut pas mêler le temporel et le spirituel, qu'ils n'ont pas à faire pression sur l'opinion publique. Mais voici l'incohérence, les mêmes évêques livrent volontiers leur avis, pour un oui, pour un non, sur la défense nucléaire, sur les immigrés auxquels ils voudraient donner le droit de vote, sur une foule d'autres sujets qui ne les concernent pas. Voici quelques années, ces mœurs de touche à tout leur ont valu la bastonnade sévère et drue d'un amiral célèbre qui les avait priés de se mêler de leurs propres affaires. A noter que l'archevêque de Paris s'est fait photographier défilant avec des immigrés revendicateurs, pendant qu'il refusait un peu plus tard de prendre la tête à Paris des manifestations qui défendaient l'Église catholique. Aujourd'hui, les évêques, dont l'un des porte-paroles cherche des excuses à l'ignoble film de Godard, je vous salue Marie, ont trouvé une cible de choix qui semble désormais convenir à leurs ailes, Jean-Marie Le Pen. C'est donc... c'était Michel de Saint-Pierre qui écrivait ça il y a quelques années dans Credo. Alors, ensuite, Credo publie l'analyse, le texte et l'analyse des réponses des évêques français métropolitains. Alors, je ne vais pas naturellement tout vous lire, mais je voudrais vous en donner deux ou trois exemples, parce que vous allez voir à quel niveau de médiocrité intellectuelle, médiocrité spirituelle, on peut descendre. Le père Guy Bagnard, évêque de Belléard, ne cache pas son hostilité à l'égard du Front National, et ses propos montrent bien qu'il fait sienne les calomnies véhiculées par les médias sans en vérité le bien fondé. Alors, il écrit, le père Guy Bagnard, évêque de Belléard, « En ce qui concerne le Front National, écoutez bien le charabia, le langage minable. C'est effrayant de penser que ces gens qui sont les chefs de l'Église de France sont incapables de manier la langue de leur pays. En ce qui concerne le Front National, ce qui fait surtout difficulté, c'est bien son racisme, en ce sens qu'il ne veut pas admettre qu'ils viennent en France des immigrés parce que ce sont des étrangers. Il voudrait qu'on les renvoie tous chez eux sans tenir compte de rien. On ne peut admettre que ce soit chrétien de parler ainsi. Certaines paroles de M. Le Pen sur la pureté de la race blanche font un peu penser à Hitler. » Alors je voudrais demander à Bagnard, évêque, où, quand a-t-il entendu parler ou lu le moindre propos de Le Pen faisant allusion à la pureté de la race blanche? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bagnard, évêque, est un menteur. C'est un menteur. Il est coupable de calomnie, de diffamation et de jugement téméraire. Comment voulez-vous qu'on ait foi dans ces gens-là? Comment voulez-vous qu'on attache de l'importance à ce qu'ils disent sur le spirituel, quand sur le temporel ils sont aussi minables, ringards, mal polis, mal élevés, diffamateurs et menteurs? Plus tard, il dit, par ailleurs, il semblerait que M. Le Pen veuille une manière autoritaire de gouverner, ce qui menace la liberté. Mais qui lui a dit ça? Où a-t-il vu ça, Bagnard, évêque? Monsieur Le Pen manifeste une attitude de pratique chrétienne qui embrouille tout, puisque ses manières de penser ne sont pas chrétiennes. Et bien là on a, vous comprenez, là on a le secret, parce que Bagnard c'est aussi un imbécile, il faut bien dire. Il livre le secret de l'hostilité des évêques. Ce qui emmerde les évêques, c'est pas du tout que le Front National soit ou soit pas raciste, ils n'en savent rien, ils ne lisent rien. Ils regardent la télé. Ce qui les enquiquine, c'est que le Front National se déclare français et déclare que les valeurs chrétiennes, les valeurs catholiques font partie de sa tradition. Et par exemple, que quand le Front National organise le dimanche une réunion, il s'arrange toujours pour que les sympathisants, les militants, les adhérents, ou les simples visiteurs, puissent, tout en étant dans cette manifestation, assister à une messe. Et donc le Front National fait célébrer une messe. Ça ne veut pas dire que le Front National est un parti catholique, ça veut dire que le Front National est un parti qui permet aux catholiques de célébrer leur foi le dimanche, comme c'est obligatoire. Et ça, les évêques ne peuvent pas le supporter. Pourquoi? Parce que ces évêques ne sont pas des évêques, ce sont des agents de subversion qui ont été mis en place dans l'Église au courant des années 50, soit par la franc-maçonnerie, soit par la subversion communiste. Et ils continuent, comme des robots, à faire leur travail de destruction. Mais si vous en voulez des preuves, je vous dis, lisez les évêques de France face au nationalisme, ce numéro spécial de Credo. Chaque page est un coup de poignard. Moi, je ressens ça, c'est avec horreur. On est au point, quand on a lu ce truc, qu'on se dit que... Il y a des évêques qui ont refusé de qui n'ont pas répondu. Hein? Alors, on se dit au fond, Liste des évêques, en page 89, est publiée la liste des évêques n'ayant pas répondu aux questions posées dans le cadre de l'enquête Credo. Alors on regarde cette liste et on se dit, au fond, après tout, on peut peut-être espérer.
Peut-être
que c'est les bons, ceux-là, qui se sont dit, bon, on va quand même pas se mouiller, mais on peut pas décemment soutenir que le Front National est un parti pire que les autres. Alors, on préfère ne pas répondre. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est ce que l'auteur de cette enquête, Jacques Chevry, secrétaire général de Credo, a écrit, puisqu'il leur dit « Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune réponse de votre part sur ces points précis. Je pense que si vous aviez trouvé dans ces propositions, les propositions du Front National, quelques aspects méritant vos observations, vous me l'auriez fait savoir. Je puis donc conclure de votre silence que vous n'y avez rien trouvé de contraire à l'Évangile. »
Qui
ne dit mot qu'on sent, c'est ça. Et dans tous ces évêques, il y en a un seul. Alors, je cherche... Je ne sais pas si je vais naturellement pas le retrouver, comme d'habitude, mais il y en a un, et bien vous le chercherez vous-même et vous le trouverez, parce que qui cherche trouve, un qui a une attitude digne et honnête. Un sur 69 qui ont répondu, je crois. Un sur 69. C'est un petit peu angoissant.
C'est beaucoup de même.
Voilà, alors.
C'est la brebis égarée.
Donnez l'adresse, Serge.
Oui, je vais trouver. Donner l'adresse, bien sûr, mais je cherche d'autres. Enfin, je cherche d'autres phrases. Par exemple. Voilà, attendez, non, c'est pas ça. Voilà. Ça, c'est l'évêque de... C'est Monseigneur Marcus qui dit « L'enseignement de Jésus sur son prochain concerne aujourd'hui beaucoup plus que les relations de chacun de nous avec son voisinage immédiat. La réponse de Jésus s'oppose à une conception qui retiendrait comme évident que le prochain soit de façon absolument prioritaire le plus proche par le sang, la culture et la religion et ne tiendrait pas compte des autres humains. » Placerier Credo ajoute, c'est une critique non déguisée de la fameuse phrase si contestée de Jean-Marie Le Pen, j'aime mieux ma fille que ma nièce que ma cousine que ma voisine qu'une étrangère. Seulement, où Marcus se moque du monde, c'est que, je l'ai déjà dit, je ne suis pas un exégète de l'évangile, mais je lis, je sais lire le français. Quand on lit l'évangile du Samaritain, du bon Samaritain, on voit bien que Jésus dit, mais qui est ton prochain? Enfin, qui est le prochain de cet homme qui a été blessé? Et on répond, c'est le Samaritain, oui, parce que c'est celui qui lui a fait du bien. Le prochain, c'est pas n'importe qui, dans l'acception de l'évangile. C'est pas n'importe quel gars qui passe au large, c'est pas ça le prochain. Le prochain, c'est celui qui vous fait du bien. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça veut dire que tu aimeras celui qui te fait du bien comme toi-même. On n'a jamais demandé d'aimer celui qui fait du mal, on a demandé de prier pour lui, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. Et évidemment, les évêques ne peuvent pas comprendre ça, puisqu'ils ne prient pas. Ils passent leur temps à faire de la politique. Voilà. Je dois dire qu'il faut lire ce document. C'est un document formidable. Alors, je vais donner l'adresse, je vais rappeler le prix. Mais je vous assure que vous n'en sortirez pas rassuré sur l'avenir de l'Église de France.
Non,
hein. Heureusement que nous, on a de bonnes églises. Alors, Credo, numéro spécial, les évêques de France face au nationalisme. Alors l'adresse c'est 5 allée Corot, C-O-R-O-T, 78 170 La Celle-Saint-Cloud, et le numéro c'est 30 francs. Alors je pense que vous pouvez envoyer 35 francs pour les frais d'emballage et de postage. Je rappelle l'adresse, Credo, 5 allée Corot, C-O-R-O-T, 78 170 La Celle-Saint-Cloud, 35 francs.
À propos des évêques, une auditrice nous dit que l'évêque de Dijon a l'intention de faire de Vézelay un centre culturel. Les franciscains vont partir à la fin de l'année, les franciscaines l'année prochaine, et les gens de Vézelay sont mécontents. Et elle rappelle que l'évêque de Dijon est le bras droit de Monseigneur de Courtrai.
Vous avez cru tout effacer dans votre geste, mais il me reste mille témoins des jours passés. Un peu de vous partout qui traîne m'apporte les joies passer les peines. Ce vieux billet, chéri, il me rappelle les nuits à bord du Normandie si belle. La lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous.
Voilà, bah écoutez, on va couper le sifflet, je le regrette, à Jean Sablon, mais on a pas beaucoup de temps comme toujours. Et je voudrais sans attendre recevoir Monsieur Léon Arnoux, qui est l'animateur d'une association pour la défense du blason de Taverny. Alors je vous ai déjà reçu deux fois dans cette émission parce que votre combat est intéressant, en sens que c'est un combat pour la sauvegarde de la tradition et de l'identité française. Et j'aimerais que vous nous disiez en quelques mots où vous en êtes aujourd'hui de ce combat.
Eh bien, au mois d'avril, nous avions organisé un dîner-débat avec Pierre Vial. Ce dîner-débat devait traiter de Bouvines, puisque Bouvines est à l'origine du blason de Taverny. Le thème en était Bouvines et ses retombées géopolitiques. Il se trouve que Pierre Vial a eu des prises de position qui n'ont pas plu à certains.
Je rappelle que Pierre Vial est un historien et qu'il est l'auteur d'un livre capital sur la résistance dans le Vercors.
Exactement, sur la bataille du Vercors. Eh bien, malgré ceci, des gens qui estiment avoir le droit de juger et de juger le jugement des juges eux-mêmes se sont arrogés donc le droit d'imposer l'annulation de cette soirée culturelle. Le maire, donc, qui se doutait que l'on parlerait non seulement de Bouvines, mais également de la façon dont il s'est débarrassé de notre blason, le maire avait organisé une manifestation contre cette soirée. Cette soirée, je le répète, devait se passer dans l'arrière-salle d'un restaurant, la salle des banquets. Elle était privée. Une centaine de personnes devaient y participer. Il y avait de nombreux conseillers municipaux de la droite classique. Il y avait des représentants d'organisations culturelles et caritatives, des chevaliers de l'ordre de Malte, etc. Eh bien, de telles pressions ont été faites contre ce malheureux restaurant qu'il a fermé ses portes et nous sommes retrouvés à la rue.
C'est quand même incroyable de penser qu'en 1992, on ne puisse pas tenir une réunion, une conférence débat historique sur la bataille de Bouvines dans la ville où cette bataille a eu lieu. C'est effrayant de sectarisme, de haine totalitaire. C'est stalinien, pour tout dire.
Eh bien voilà,
c'est vraiment des méthodes
staliniennes. Vous venez de citer un mot stalinien. Alors, comme j'avais la preuve que, puisque dans mon enveloppe de conseiller municipal, par erreur, un document avait été mis qui prouvait que c'était depuis le fax de la mairie de Taverny que ces organisations étaient alertées. Donc il y avait, comme je l'ai peut-être dit, le MRAP, la LICRAL, la Ligue communiste révolutionnaire, le Parti socialiste, enfin ils y étaient tous. Et ayant la preuve que ceci avait été manigancé par la mairie, j'ai donc sorti un tract où je dénonçais les méthodes staliniennes du maire. Eh bien, figurez-vous que cela ne lui a pas plu et il me fait un procès. Il me fait un procès actuellement. Donc, à 61 ans passés, j'arrive en correctionnel, comme le bon docteur Garetta, pour avoir dit que le maire était stalinien. Et oui, le maire est stalinien, il a des méthodes staliniennes, toute la ville le dit.
Alors, cela dit, quelle est la réaction des habitants de Taverny en face de votre action? Est-ce que vous êtes arrivé à mobiliser un petit peu les gens? Est-ce qu'il y a un frémissement?
Absolument. En conseil municipal du mois d'avril, l'ancien conseiller municipal, a déclaré ceci. La vérité nous oblige à déclarer que c'est bien vous, monsieur le maire, qui, en faisant pratiquement disparaître, à quelques exceptions près, le blason historique de notre ville des documents et véhicules municipaux, avait provoqué de la part de certains conseillers municipaux une légitime opposition. En ce qui concerne notre groupe, nous avons immédiatement décidé de faire figurer ce blason sur tous nos documents. Notre collègue Léon Arnoux a cru nécessaire de créer une association pour le rétablissement et la défense du blason de Taverny. C'est d'ailleurs dans le cadre et l'action de cette association que notre collègue organisait un dîner-débat avec comme thème « Bouvines et ses retombées géopolitiques ». Débat intéressant puisque, à la bataille de Bouvines, la piétaille de l'armée française était composée en partie d'habitants de Taverny et de sa région. C'est ce que nous rappellent les aigles figurant sur le blason communal. Ce débat devait être animé par Pierre Vial, professeur agrégé d'histoire, auteur de nombreux ouvrages et spécialiste de l'époque médiévale. Ce débat n'était donc pas organisé par le Front National, mais par Léon Arnoux, président d'une association relevant de la loi de 1901. Et les thèses révisionnistes ne figuraient absolument pas au programme.
Les thèses révisionnistes à propos de Bouvines ?
Oui, oui, oui.
C'est vraiment...
Dans ces conditions, rêver, hein. Nous pouvons penser que sans intervention extérieure et ce remue-ménage politicien, l'impact de cette soirée n'aurait pas dépassé les quelques dizaines de participants et l'ordre public n'aurait pas été troublé. Donc, l'ancien maire désavoue le maire actuel et c'est...
Léon Arnoux, votre combat, il est rejoint par d'autres associations. Est-ce que vous avez des contacts avec des associations d'autres villes qui essaieraient de...
Oui, absolument. Nous recevons des lettres touchantes de retraités masculins et féminins qui nous disent qu'ils sont intéressés par ce combat, qui m'envoient des sommes modestes et qui m'envoient des petits documents qui sont consacrés à Bouvines. C'est une chose qui intéresse beaucoup les gens.
À quelle adresse peut-on vous écrire si on veut vous soutenir ou vous aider ou participer à votre lutte pour la tradition?
Alors, le siège de l'association... Association pour le rétablissement et la défense du blason de Taverny, 228 rue d'Herblay, 95-150 Taverny.
228 rue d'Herblay,
comme
95-150 Taverny. Voilà. Mais monsieur Léon Dufour, j'allais vous appeler Léon Arnoux, merci.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Vous viendrez dans quelques mois pour nous dire où vous en êtes.
Dans mon procès, oui, absolument.
Entendu, au revoir.
Au revoir, merci.
Si tu reviens, sauras-tu demander pardon, me donneras-tu la raison pour laquelle tu t'en allas. J'attends ce que tu me diras si tu reviens. Tu m'écris que tu les déplores, toutes tes erreurs d'autrefois. Tu dis que tu m'aimes encore et que ce soir tu reviendras chez moi. Vois-tu que l'on peut dans la vie jouer avec un grand amour, et puis quand vous en prend l'envie, annoncez gaiement ton retour. Si tu reviens, sauras-tu demander pardon, me donneras-tu la raison.
Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Je sais très bien que tous les mots ne trouvent rien. J'attends ce que tu me diras si tu reviens. Voilà pourtant que l'heure sonne, dehors à sa glisse et se voit. Le pas s'éloigne, le bruit sonne. Vas-tu me quitter encore une fois? Quel discours tout à l'heure?
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge Bekech, diffusé en direct le mercredi 7 octobre de 18 à 21h et en différé le jeudi 8 octobre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bonjour et bonsoir aux auditeurs qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission, au cours de laquelle, comme prévu, nous allons recevoir le professeur Jacques Herz, auteur d'un livre « Moyen-Âge, l'imposture ». Nous recevrons ensuite, comme je l'ai dit, Pierre Wouters, mais comme j'avais prévu, on a pris un quart d'heure de retard, et je vais quand même donner la parole à Cyril Leblanc, qui rentre de Russie, il rentre de Saint-Pétersbourg, où il a été faire un petit voyage, organisé par une agence de voyage qui est très intéressante parce que c'est pas du tout une agence qui fait du voyage au kilomètre, si j'ose dire, du voyage de groupe au kilomètre. C'est une agence qui travaille beaucoup le caractère culturel, la découverte du patrimoine, etc., et de l'histoire d'un pays, et notamment. C'est une agence qui attache une très grande importance à la qualité des guides.
Ce qui sont des conférenciers d'ailleurs, qui sont diplômés d'État, qui travaillent dans ce métier déjà depuis très longtemps, qui travaillaient d'ailleurs déjà au temps du communisme le plus dur, ce qui fait qu'on a droit à certaines choses amusantes, comme des anecdotes racontées par le guide, qui nous dit « Bon, vous voyez, c'est ici qu'on nous apprenait nos textes de propagande les plus utilisés ». Comment expliquer aux journalistes qui posent des questions embarrassantes que
le régime est un régime formidable. Je me souviens d'avoir eu un guide comme ça en Russie qui nous expliquait que les ingénieurs avaient 15 jours de vacances alors que les ouvriers n'avaient qu'une semaine. Alors on avait dit, mais c'est quand même surprenant. Il a dit, non, c'est tout à fait normal puisque les ingénieurs ont plus d'argent que les ouvriers, donc c'est normal qu'ils aient plus de vacances. C'est le genre de discours que tenaient les fameux guides chantés par Gilbert Bécaud. Mais Clio, c'est pas des guides comme ça, c'est des guides un peu plus cultivés, un peu plus intéressants certainement. Alors, je donne l'adresse tout de suite de cette agence si vous vouliez prendre des renseignements sur les voyages qu'ils organisent. C'est 34 rue du Hameau, 75 015 Paris, et le téléphone c'est 48 42 15 15. Alors Cyril, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce qui t'a frappé le plus par rapport à ce que tu attendais en arrivant en Russie et par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as découvert? Quelle est ta plus grande surprise?
Ma plus grande surprise, c'est la différence énorme qu'il y a entre les deux différents visages de la Russie. Il y a celui qu'on nous montre d'un côté, c'est-à-dire les palais splendides, les perspectives interminables. Les perspectives, ce sont ces avenues immenses qui caractérisent la ville de Saint-Pétersbourg. Et puis d'un autre côté, il y a la vie de tous les jours, et c'est une vie effroyable. On est sans arrêt accosté par des gens qui veulent vous vendre. Qui veulent vous vendre n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Ils vendent. On a vu des vieilles dames vendre les collants qu'elles avaient portés. Parce que ces gens-là crèvent de faim. Pourquoi est-ce qu'ils crèvent de faim? Parce qu'ils ont 4 dollars seulement de retraite par mois. Ce qui représente en francs français environ 22-23 francs. Bon, c'est aberrant. Et ces gens-là vivent comme ça. Et ça les rend méchants. Alors, comme ils deviennent méchants, ils se battent. Ils se bagarrent, ils essayent d'arnaquer sans arrêt, ils font des escroqueries. La première soirée de mon séjour, j'ai été témoin d'une bataille dans un bistrot comme on n'en voit jamais.
Enfin, dans un bistrot, c'était pas un bistrot, c'était le plus grand restaurant de la ville, le restaurant Métropole, qui est un grand restaurant. Et où, alors, raconte-nous ce qui s'est passé.
Bon, en fait, on a vu ça dans un bistrot soi-disant bien fréquenté. des types qui discutaient tranquillement, et d'un seul coup, le ton est monté, et ça s'est réglé à coup de bouteille de vodka fracassée sur la tête. Bon.
C'était des bagarres entre la mafia géorgienne, la mafia russe.
Caucasienne, oui, c'est caucasienne. Ça, parce que les caucasiens là-bas sont très mal vus. On dit d'eux qu'ils forment la tête de la mafia, qu'ils vendent de la drogue, qu'ils sont des proxénètes. Et on nous explique ça avec un racisme effroyable. Et c'est naturel. On dit alors les. Quoi au sujet des caucasiens? Ah, oh, les caucasiens, bon, c'est des emmerdeurs, c'est la sous-race. Cela, il faut s'en débarrasser rapidement. Mais ils vous expliquent ça sans sourciller, parce qu'on leur a pas appris les bonnes manières occidentales qui consistent à dire on est tous des frères, on s'aime les uns les autres.
Et alors le marché noir sévit à l'état endémique, on peut tout acheter sans arrêt.
Oui, c'est ça. On peut trouver pour 50 francs, pour 70 francs, tout se paye en devise. Hein. Mais on peut vraiment tout acheter. Comme ça, on voit des gens qui achètent des uniformes militaires pour 25 balles. Il y a ces histoires d'officiers soviétiques déterrés, leurs tombes ont été profanées, tout simplement parce qu'il fallait qu'on leur pique leurs uniformes, parce que le marché noir, ça se vendait bien.
Et des insignes, surtout les décorations.
Des insignes, bien sûr. Des insignes qui sont vendues là-bas 50 francs et qui se revendent de 1500 balles, 2000 balles, 3000 francs sur le marché français.
Maintenant, il y a un autre aspect qui est amusant, c'est l'arnaque permanente. C'est-à-dire que tu as vu des gens, par exemple, qui étaient très contents d'avoir acheté des boîtes de caviar.
Des caviar, oui, c'est ça. Alors, on leur vend 5 dollars, 25 francs, une boîte de caviar. Alors, ça rend tout le monde très content. Et puis, quand on arrive au restaurant le soir, qu'on ouvre la boîte de caviar, il y a du sable dans la boîte. Ou une fille du groupe qui désirait acheter des montres se fait présenter un modèle. Elle dit très bien, j'en prends trois. On lui donne la première montre et deux autres boîtes. Arrivée à l'hôtel, elle ouvre la première boîte, il y avait sa montre. Dans la deuxième, une autre montre qui n'avait rien à voir avec le premier modèle. Et enfin, dans la troisième. Il y avait des copecs et des clous. Alors il faut préciser que pour faire un franc, je crois que c'est ça, je pense pas dire de bêtises, pour faire un franc, il faut à peu près 4000 copecs. Bon, donc 15 dollars pour rien, quoi. Mais c'est un peu la règle du jeu, parce que ces gens-là vous vendent pour rien des choses qui ont une valeur énorme en France, et c'est un peu normal de temps en temps qu'ils se rattrapent sur une petite escroquerie.
Quelle est l'impression qui domine quand on est là-bas? D'abord, est-ce que tu as eu l'impression que ce qu'on disait en France, que tu entendais, ce que tu voyais à la télévision, entendais à la radio, ou lisais dans les journaux en France sur la Russie d'aujourd'hui, correspond à la réalité?
Non, il y a toujours un petit décalage. Ce qu'on continue de nous répéter aujourd'hui à la télévision et à la radio, enfin, ce que les médias nous répètent, c'est que... Enfin, ils nous disent toujours la même chose depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on entend systématiquement la même chose, que les gens font la queue, qu'on mange beaucoup de caviar et qu'on boit de la bonne vodka. Or, la vodka vient des États-Unis et comme je le disais, le caviar, c'est du sable. Les gens font la queue... C'est devenu un réflexe. C'est pas parce qu'il n'y a rien dans les magasins. C'est parce qu'il faut être là avant l'ouverture. Ces gens ont été conditionnés, ils ont eu le cerveau lavé par le régime communiste et ça a fait d'eux... Une espèce étrange qui vit sur des habitudes. En fait, on comprend parfaitement ce que peuvent faire 70 ans d'un régime totalitaire et anticatholique.
Est-ce que les gens sont gentils? Pour des Français, quand on arrive là-bas, est-ce qu'ils ont une attitude d'accueil sympathique?
Non, c'est... Enfin, je peux pas dire ça, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer certaines personnes qui ont vraiment été adorables. À côté de ça, les autres sont assez souvent intéressés. C'est toujours cette question d'argent. Le Français arrive là-bas avec un pouvoir d'achat de 200 dollars par jour. 200 dollars, c'est... comme je le disais, ça représente 50 mois de retraite pour une personne âgée. Alors, vous arrivez là-bas, vous êtes multimilliardaire. Et... les gens ont un peu tendance à vous regarder avec ce regard-là.
S'il y avait un souvenir à garder, ce serait quoi? Ce serait plutôt la beauté des palais, des musées, ou la misère des gens, ou la violence de la vie quotidienne? Qu'est-ce qui reste au fond quand on revient de là-bas?
Bon, mais les deux images marquantes, c'est le marché kolkhozien, où donc des gens vendent ce qu'ils ont accumulé au cours de toute leur vie, des cochonneries, enfin des vieux collants, des bibelots, des choses qui représentent rien, si ce n'est une vie. Et l'autre image qu'on peut garder de ce pays et qu'il faut essayer de garder, parce que c'est tout de même plus agréable, c'est le palais de Pavlovsk, qui est une véritable splendeur, qui contient tous les cadeaux qui ont été faits au tsar au cours du temps par les différents pays d'Europe.
Alors la question maintenant, est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il faut mieux s'abstenir? Si tu devais y retourner, là, si on te proposait d'y retourner, tu y retournerais?
Moi je repars tout de suite si on me demande de repartir. Ce que j'expliquais l'autre jour, c'est maintenant qu'il faut partir. Parce que je pense que d'ici 6 mois, ce sera plus vivable. D'ici 6 mois, c'est fini. Ce qui sera fini, c'est la possibilité de côtoyer un peu la population. Parce que les gens sont en train de devenir... C'est un pays qui va nous faire penser à l'Égypte, dans le sens où les gosses commencent déjà à s'accrocher à votre manteau pour avoir un peu d'argent. Ces gens sont pauvres, ils voient beaucoup d'argent arriver, ils en veulent. Et ils commencent seulement à découvrir maintenant que les Occidentaux peuvent leur en donner. Alors il faut profiter maintenant du fait que ces gens ne sont pas encore totalement pourris par ce capitalisme sauvage.
Mais voilà, un petit croquis de la Russie. Saint-Pétersbourg, c'est quand même la ville sacrée, la ville historique de Russie. Un petit croquis qui, je trouve, modifie pas mal la vision qu'on donne habituellement de ce pays. Et au fond, c'est bien inquiétant parce que je crois que si ça continue comme ça, on va bientôt voir une nouvelle immigration succéder à l'immigration noire africaine. Et je ne sais pas si ça sera mieux, au fond. On peut vraiment se poser la question.
Ex Oriente Lux.
Ex, oui. De quel genre de lumière, ça reste à savoir. Merci Cyril. Avant de donner la parole au professeur Hertz, je crois qu'on... Non, on n'entend pas Marc Demme, il n'est pas en ligne. Bon, alors, il faudrait peut-être... On l'appellera peut-être un peu plus tard. Non, alors, appelez-le maintenant, voilà.
C'est ça. Je peux vous dire, on a un certain nombre de messages d'auditeurs qui nous entendent mal.
Oui.
Alors, il faut qu'ils nous écrivent leur doléance en précisant s'il s'agit d'une situation ancienne ou nouvelle, c'est-à-dire postérieure au 4 septembre 1992. Et aussi, il faut qu'ils écrivent au CSA des lettres courtes, objectives et courtoises. Celles-là sont efficaces.
Alors, est-ce qu'on a l'adresse du CSA ici?
Non, Je ne l'ai pas indiqué.
Bon, on va la voir certainement rapidement et on pourra l'indiquer. En tout cas, l'adresse de Radio Courtoisie, c'est 61 boulevard Murat, 75016 Paris, et là vous écrivez pour nous informer justement des conditions de réception. Ça vaut pour nos auditeurs de la région parisienne, mais ça vaut aussi pour les auditeurs de Chartres, du Mans, de Cherbourg, de Caen et du Havre.
Et puis on nous rappelle aussi que c'est la Saint-Serge aujourd'hui, alors je souhaite votre fête.
Ah ben ça, c'est gentil.
Et à tous les Serges que nous connaissons.
Oui, avec Martinez on s'est fait des grandes congratulations ce matin, on s'est entre-souhaité nos fêtes. Marc Demme, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous.
Bonsoir.
Et après, pendant que j'y suis, je vous souhaite une bonne fête.
Ah ben écoutez, vous êtes bien bon. Alors, que nous réserve la prochaine parution de la lettre d'information religieuse Iota Unum?
Eh bien, d'abord, nous avions dans le passé, si vous vous souvenez, nous avions parlé de certaines choses qui, en Autriche, paraissaient bizarres. C'est-à-dire qu'il y avait comme une campagne sourde qui était menée contre le célibat sacerdotal. Entre autres, le 28 septembre, je parlais d'une radio autrichienne sur laquelle un prêtre anonyme était venu raconter qu'il était marié, il avait 79 ans, 4 enfants, etc. Bon. Alors, tout cela paraissait bizarre et je suivais un peu la chose de près quand arrive une déclaration du cardinal Koenig, un journal, donc l'ancien archevêque de Vienne, qui dit tout simplement que c'est un problème qui doit mûrir, l'abandon du célibat sacerdotal. Peut-être faudra-t-il une génération. Dans l'Église occidentale, le célibat s'est développé pour différentes raisons, mais cela peut changer naturellement. Et puis, il dit que...
Il pourra devenir prêtre de père en fils, en somme.
que si ça ne s'est pas fait encore, c'est à cause du pape. Parce que c'est un Polonais. Donc il vient d'un pays, la Pologne, où l'on voit les choses d'une autre façon. Vous voyez, il y a là une opposition, on peut dire, à la personne du pape, qui est le fait, non pas d'un méchant intégriste, mais d'un cardinal de la Sainte Église.
Il a été incardiné par Jean-Paul ?
Eh bien, non. Quand il a été... quand Jean-Paul II est arrivé, quand Jean-Paul II est devenu pape, le cardinal Koenig a été un peu mis sur la réserve. Ah. Il y avait donc une opposition déjà sur plus d'un point, entre autres sur l'ordre politique, par exemple, dont il est un des pères.
Tiens, comme par hasard, le cardinal qui est partisan de la complicité avec le communisme massacreur de prêtres est également partisan du mariage des prêtres. C'est intéressant. Je pense que si les femmes de prêtres se retrouvent enceintes, il faudra les faire avorter, suivant la logique koenigienne.
Il faut lui poser la question.
Oh, sûrement, lui aussi doit être... Il ne doit rouler pour aucun lobby moralisateur.
Non. Eh oui.
Autre chose ?
Alors, une nouvelle un petit peu inquiétante, c'est le fait que Jean-Paul II ait ordonné de transporter de Sainte-Marie-Majeure à Saint-Jean-de-Latran le portrait de la Vierge de Marie que la tradition attribue à Saint-Luc pour l'y exposer à la vénération des fidèles. Or, on sait que cette image n'est pas montrée généralement, est gardée en réserve, et qu'elle n'est sortie et exposée que dans les cas graves.
Oui.
Elle aurait été quatre fois jusqu'ici, dont la dernière fois en 1944, au moment où Rome risquait d'être détruite. Donc on peut s'interroger, à moins qu'il n'y ait pas de raison précise, mais on peut s'interroger sur les événements graves que le pape prévoit.
J'ajouterai un détail qui n'a rien à voir, mais qui est quand même parfaitement parallèle, c'est que je dînais récemment avec quelqu'un que je recevrai à cette émission, qui vient d'écrire un livre sur les mystiques, et sur les phénomènes surnaturels qui se manifestent chez les mystiques,
oui.
Et qui me disait que le fameux tombeau miraculeux d'Arles-sur-Tech est vide depuis quelque temps. Or, la tradition dit que ce tombeau miraculeux qui se remplit d'une eau dont des années et des années d'expériences scientifiques n'ont pas pu établir l'origine, puisqu'elle ne ressemble ni à l'eau de pluie, ni à l'eau de ruissellement, ni à l'eau de source, ni à l'eau de la ville. Donc ce tombeau se remplit de cette eau, sauf à la veille de catastrophes, notamment à la veille de guerre ou choses comme ça. Et là, depuis quelque temps, il est résolument vide. Alors, ces deux petits événements pourraient bien ne pas être totalement étrangers à la pronostication d'une situation difficile.
Oui.
Autre chose ?
Alors, autre chose, un petit fait quand même qui est intéressant. Au Pérou, les vocations augmentent, les vocations sacerdotales. Et pourquoi ? Parce que la théologie de la libération régresse. Donc, il y a nettement... un rapport entre les deux choses, et dans ce même Pérou, eh bien, on signale que le prestige des évêques s'affirme, alors qu'il était tombé assez bas précédemment.
Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Si les évêques sont prestigieux, il est sain et bon que leur prestige s'affirme. Ça risque pas d'arriver en France.
Ça arrivera un jour.
Marc, merci beaucoup. Je rappelle donc que toutes ces informations et bien d'autres peuvent être retrouvées dans la lettre d'information religieuse Iota Unum que vous publiez et qu'on peut se procurer par abonnement en écrivant boîte postale 52 78101 Saint-Germain-en-Laye-Cedex. On envoie sa carte de visite, on reçoit trois semaines de suite la lettre et ensuite on peut s'abonner.
On peut s'abonner en toute liberté.
Merci Marc.
Allez,
au revoir. Au revoir. Et voilà, maintenant je me tourne vers le professeur Jacques Lerz pour lui dire combien je suis sensible à sa présence ici. Puisque...
Et moi j'en suis très heureux, après vous avoir écouté, je dirais presque des années tous les mercredis.
Mais écoutez, si j'avais su que j'avais un auditeur aussi prestigieux, presque aussi prestigieux qu'un évêque dans sa partie, j'aurais été probablement très, très inquiet,
mais vous
très
en avez
angoissé.
D'autres, de toute
oui,
façon.
Oui, mais je sais bien, mais je préfère ne pas y penser. Je fais comme si personne n'écoutait, comme ça je suis plus tranquille. Et alors, j'ai dit tout à l'heure en votre absence, et je le répète, que vous êtes professeur à la Sorbonne et que vous êtes...
exactement.
Pas exactement. Oui, parce que alors, ça fait partie des nuances.
Non, c'est pas une nuance, je crois que c'est quelque chose d'important. Je suis professeur dans l'une des universités de Milly à la Sorbonne.
Ah, voilà.
C'est-à-dire que nous continuons, tout au moins vous continuez, voyez-vous, à parler de Sorbonne, alors que depuis 1969,
n'existe
il y a 4 ans. Et il y a là plusieurs universités... non pas ennemies, mais concurrentes, rivales, qui n'ont ni les mêmes disciplines, ni tout à fait le même mode d'enseigner, ni les mêmes rigueurs, je ne fais aucune sorte de hiérarchie, mais enfin, il n'y a pas de confusion à établir, et je suis content d'être dans la mienne.
Bien. Et vous êtes médiéviste, c'est-à-dire un spécialiste du Moyen-Âge.
Oui, puisque les rigueurs, surtout lorsque j'étais en province, quelquefois fort loin, de certaines universités obligent à tout enseigner, au fur et à mesure que l'on monte, que l'on approche de Paris, on vous laisse un coin un peu plus précis, et je suis surtout spécialiste de la fin du Moyen-Âge.
Alors, paradoxe entre les paradoxes, vous qui êtes un spécialiste du Moyen-Âge, et même de la fin du Moyen-Âge, je voulais le dire, et qui est un spécialiste mondialement reconnu, je le dis, ne vous récriez pas.
C'est vous qui le dites.
puisque vous êtes invité à des conférences aux États-Unis, enfin dans le monde entier, vous êtes considéré comme une des grandes, sommités en matière de Moyen-Âge. Je dis paradoxe des paradoxes, vous publiez un livre qui vient de sortir et dont le titre est Moyen-Âge, l'imposture.
Oui.
Ce qui tendrait à démontrer que la spécialité dont vous êtes l'un des plus grands, pardonnez-moi, spécialistes dans le monde, n'existe ou s'applique à rien, à quelque chose qui n'existe pas.
Le discours s'articule facilement, là, n'est-ce pas ? Il est entendu qu'il nous faut une spécialisation ou une périodisation. Vous n'allez pas enseigner à chacune des classes de collège, de lycée, dans la mesure où on enseigne quelque chose, mais pas l'enseigner l'histoire universelle de l'Antiquité à nos jours. Donc on coupe en tranches, et j'insiste beaucoup, pour la recherche même, pour l'investigation scientifique, il nous faut aussi une spécialité. On ne peut pas travailler sur tout et sur n'importe quoi. Donc ces spécialités sont plus que des commodités, elles sont des nécessités. Seulement, le découpage en tranches s'est fait il y a plus de 2 siècles, et ces gens-là n'ont consulté personne, j'imagine, connaissaient très peu de choses sur l'histoire, et nous ont collé, le mot est brut, mais il est exact, ad aeternum, je pense, on n'en sortira pas, des divisions auxquelles on finit par croire. On finit par croire que ça existe. C'est un peu, n'est-ce pas, comme celui qui forge, vous savez, la poupée d'argile, et puis qui se croit qu'elle va parler du jour au lendemain. Je suis donc spécialisé dans l'histoire du Moyen-Âge. Je ne me sens pas, à part les conversations de café de commerce, n'est-ce pas, capable de parler de l'histoire actuelle, ni contemporaine. Je ne suis que curieux sur l'ancienne...
Par les temps qui courent, c'est confortable et prudent, je dirais.
Oui, mais ce n'est pas respecté par tout le monde. Et de loin.
Ah mais non, le grand truc, c'est de parler de ce qu'on ne connaît pas, comme ça, c'est... Mais ça, c'est une spécialité journalistique.
Il ne reste pas grand-chose, à ce moment-là.
Alors, au fond, c'est vrai ce que vous dites. Quand on y réfléchit un petit peu, on se dit... on a presque l'impression qu'un beau jour, les gens se sont levés en disant « Tiens, c'est le Moyen-Âge a commencé ce matin. »
Oui. Hein? Lorsque j'étais enfant, et vous me regardez, vous imaginez que ça fait un certain nombre d'années, mais je ne crois pas que les choses aient beaucoup changé. N'est-ce pas, on nous distribuait à l'école primaire, et il fallait passer le certificat d'études avec ça, des petits... une sorte de dépliant vert où il y avait toute la liste des dates importantes, n'est-ce pas, alors. Et en 1453, c'était clair, fin de la guerre de 100 ans, fin du Moyen-Âge. Et le lendemain, que se passait-il ?
Début de la Renaissance.
Il ne mettait pas tout à fait. Il y avait aussi la prise de Constantinople par les Turcs, ça c'était plus sérieux, naturellement. Et c'est un de mes premiers arguments, il n'y a ni commencement ni fin. Si l'on essaye de savoir ce que pouvait être la fin du Moyen-Âge, on est en train d'errer sur une plage chronologique d'un siècle et demi. Et vous prenez 1453, oui, mais pourquoi pas, surtout cette année, prendre 1492.
Ça oui, fait... qui est vraiment un basculement. Ça on peut prendre 1431 aussi.
Oui, bien entendu. Ça fait déjà 60 ans, là, entre 31 et 92. Mais comme dès que vous parlez de fin du Moyen-Âge, vous arrivez à la Renaissance, à l'éclosion spirituelle, intellectuelle, dont on dira peut-être deux mots l'heure, vous êtes obligé de chercher les prémices de cela. Vous les trouvez dans le trio très connu, n'est-ce pas, de Pétrarque, Giotto, l'autre c'est Boccace. Ben, tout ça, c'est autour de 1300. Alors, nous sommes entre 1300 et 1492.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la fin du Moyen-Âge le passage d'un genre d'époque à un autre genre d'époque, même s'il dure ce passage un siècle ou un siècle et demi, il est plein d'événements qui semblent aller dans la même direction, que ce soit l'imprimerie, que ce soit les grandes découvertes, que ce soit la naissance d'un nouveau langage grâce à Rabelais. On a l'impression qu'il se passe plein de choses qui effectivement provoquent ou sont provoquées.
Oui, votre attention est attirée dessus. Mais je pense que si on prenait le XIIIe siècle, on trouverait plein de choses aussi. Je crois que, pas l'imprimerie, mais il y a eu des choses, vous prenez au dépourvu, mais il y a eu des choses très importantes. Vous pensez à la formation du Royaume de France, c'est quand même quelque chose. Bouvines, vous venez d'en parler, n'est-ce pas? Tout ça a compté, et pour faire mauvais esprit, je dirais que tous les siècles sont des siècles de transition. Il y a toujours des transitions. Mais bien sûr, l'Amérique c'est gros, et l'imprimerie c'est... également assez gros.
Et Rabelais, c'est pas mal, non ?
Rabelais, c'est pas mal, oui, mais enfin, là, il y a aussi les Fabliaux.
Oui, oui, non, mais Rabelais, en prenant pris comme personnage emblématique.
Il y avait du répondant, oui.
Alors, le début de ce Moyen-Âge qui n'existe pas.
C'est encore pire, n'est-ce pas ? C'est ou le deuxième ou le cinquième siècle. Là, il y a trois siècles.
Trois siècles.
Ou bien les uns vous disent, c'est le début de la décadence de l'Empire romain. Les mal intentionnés vous disent, c'est à cause du christianisme qui a brouillé le jeu des institutions, et puis ces gens-là vivaient pas comme les autres. Ou bien alors, vous attendez l'arrivée des barbares. Et puis, certains vous disent, les barbares, ils n'ont pas quand même tout changé. La langue est restée, plus ou moins. Et puis l'Empire romain, Constantinople, c'est 1453. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de chute du tout. Et mes collègues, et là, je dirais que c'est une sorte de fantaisie de leur part, de coquetterie, mais je les approuve assez, se sont dit, nous allons créer quelque chose, et dans mon université, au moins une petite dizaine de France, maintenant, il y a Antiquité tardive et au Moyen-Âge. C'est bien qu'ils ont cassé le carcan, si vous voulez, et la transition...
Ah, ça, c'est 3-4e siècle.
Oui, 3-6e. Oui, ils vont jusqu'au Bérovingien.
Antiquité tardive, c'est en référence à la formulation de Marroux
C'est possible, Marroux a une très grande influence auprès des gens dont je parle, bien sûr, oui. Mais le mot devait courir facilement, la fin de l'Antiquité tardive. On a dit Moyen-Âge tardif, mais justement, on ne dit pas Moyen-Âge tardif, on aime dire bas Moyen-Âge.
Voilà. Oui, ce qui est d'ailleurs générateur d'une grande confusion, parce que moi, j'ai longtemps pensé que le bas Moyen-Âge était le haut Moyen-Âge, et qu'il était appelé bas Moyen-Âge par référence au bas empire, c'est-à-dire que la fin suite. De l'empire avait continué par le début du Moyen-Âge, donc on est passé du bas au bas et ensuite on était monté vers le haut.
Oui, le bas, ça peut être subjectif, c'est aussi un peu comme la haute et la basse Normandie, n'est-ce pas? On ne sait pas exactement.
Oui. Alors, cela étant, est-ce que malgré tout, on peut définir, ou est-ce que vous l'écartez complètement, le Moyen-Âge comme une période particulière pendant laquelle il se serait passé des choses spécifiques?
Il se serait passé trop de choses pour pouvoir le définir. Je crois que la première des constatations, qui est une telle palissade que vraiment je suis un peu confus d'en parler, c'est que l'on nous parle du Moyen-Âge, alors vous avez les institutions médiévales, la ville médiévale, j'ai failli faire un livre intitulé comme ça, j'ai changé au dernier moment, c'est pas l'habitude est tenace. On vous parle de l'homme médiéval, et ça a duré 1000 ans, ou à peu près. D'après ce que nous venons de dire.
C'est le millénium.
Oui, alors c'est complètement ridicule de penser, est-ce que vous parlez de Charlemagne, est-ce que vous parlez de Jeanne d'Arc? Et il faut savoir, n'est-ce pas? Et ni les institutions, ni les façons de vivre, ni la civilisation matérielle, ni le christianisme et la spiritualité n'étaient les mêmes. Donc là, on met tout dans le sac et puis allez-y. Si bien que dans ce livre, là, un moment, et puis dans un article, on m'a demandé tout récemment, je me dis, il y a un tel mépris de ne pas entrer dans le détail que certains... pas de mes collègues du tout, mais certains publicistes, disons, parlent de l'homme médiéval comme ils parlent de l'homme de Cro-Magnon. Quoi. Il n'est pas tout à fait achevé, n'est-ce pas ? Peut-être qu'un jour il arrivera jusqu'à nous, mais nous y sommes.
Alors là, je crois qu'on arrive au point important et intéressant de l'affaire, c'est que on vit depuis, je sais pas si c'est depuis Jules Ferry ou avant, moi j'ai pas l'expérience de ça, mais je sais qu'on nous enseigne, on nous a enseigné dans les écoles que le Moyen-Âge était une période d'obscurantisme, une période arriérée. En revanche, la Renaissance était une période d'intelligence, de beauté, de grâce, d'élévation spirituelle. Quelle est la réalité de tout ça?
Plutôt que la réalité, j'aimerais dire d'abord quelles peuvent être les origines de cette sorte de combat contre, n'est-ce pas, le Moyen-Âge. J'ai moi-même évolué beaucoup à essayer de réfléchir là-dessus. À l'origine, naturellement, on pense tout de suite au matérialisme historique et l'anticléricalisme est peut-être un gros mot, mais enfin le refus d'admettre une spiritualité, surtout chrétienne, surtout dominée par Rome, n'est-ce pas? Alors c'est là toutes les superstitions, la peur de l'an 1000, toutes ces choses-là, n'est-ce pas, le culte des saints. Et là, c'est ce qui saute aux yeux et pendant longtemps j'y ai cru. Ensuite, il y a naturellement l'esprit, si vous voulez, anti-aristocratique, ou tout au moins les séquelles de la Révolution qui condamnaient tout l'Ancien Régime. Actuellement, lorsque j'y pense plus profondément, il me semble que la raison principale est la croyance dans l'unité, c'est-à-dire une sorte de jacobinisme qui propose et loue un État le plus fort possible, le plus centralisé possible, n'est-ce pas ? Donc tout ce qui va contre la centralisation, depuis la féodalité jusqu'aux provinces, les États au sens de l'époque, le régionalisme, tout ça condamnable.
Oui, alors là, il y a un phénomène même qui transpire dans le langage, puisque des mots comme médiéval, comme moyenâgeux, comme féodal,
c'est pire,
sont devenus des mots qui ont une charge péjorative extrêmement lourde.
Oui. Mais même gentil. Gentil est devenu, ou brave,
oui,
mais le gentil est devenu aujourd'hui le synonyme de l'imbécile. Au Moyen-Âge, il a quand même une autre signification.
Oui, puis l'obscurantisme, et sans savoir, et on nous a, vous aussi peut-être, malgré notre différence d'âge, et on nous a truffé de ces idées-là, vous avez peut-être, parce que au moment où vous étiez à l'école, on devait encore apprendre quelque chose.
Ah bon, on apprenait,
oui, on apprenait quelque chose, oui. Il y a eu les seigneurs brigands. Mm-hmm. Ces seigneurs brigands qui rançonnaient les voyages. Alors c'était le sire de Coucy qui était affreux, et puis le roi de France qui Louis VI surtout, n'est-ce pas? Et puis les amis, à raison,
Coucy mon beau souci.
C'est fini. C'est fini. Et le résultat, c'est que l'impôt royal 10 fois plus fort a remplacé l'impôt seigneurial. Mm. C'est exactement ça. Il n'y a rien eu de changé d'autre que le transfert d'une autorité à une autre. Et cette autre, la seconde autorité, la royale, disposant de moyens infiniment, ils savaient mieux compter, n'est-ce pas ? Et ils avaient des officiers un peu plus actifs.
Alors, cette image du Moyen-Âge, ou du prétendu Moyen-Âge, elle n'est pas dressée pour des raisons simplement de commodité chronologique. Parce que d'abord, il est évident qu'une période qui dure en gros du 3e siècle au 15e siècle, c'est-à-dire pratiquement presque 12 siècles, enfin, 1000 ans en tout cas,
oui,
certainement,
enfin, 1000 ans, un bon point.
Elle n'a aucune unité. D'autre part, géographiquement, il n'y a aucune unité non plus, parce qu'il est évident que le Moyen-Âge dans les Flandres n'avait rien à voir avec le Moyen-Âge dans la province
narbonnaise. Non, il ne marche pas au même rythme, c'est sûr.
Donc, c'est pas simplement une commodité chronologique, ça forcément aussi, ça correspond, ou plutôt ça obéit à des arrière-pensées.
Ça obéit à des arrière-pensées, non pas la découpe, si vous voulez, il en fallait une, et je trouve qu'il serait ridicule d'essayer d'en proposer une autre, d'attacher son nom à une réforme, enfin, il y a des gens qui aiment ça, mais on en a eu beaucoup, et n'essayons pas. Mais faisons ça tranquillement, disons, nous pouvons nous dire, n'est-ce pas, que nos élèves, naturellement, ne peuvent pas tout apprendre la même année, mais ne croyons pas, dur comme ferme, à une spécificité, à une originalité. Et alors, quand même, l'inconvénient de ces coupures, pour l'enseignement, c'est moins net. Mais pour la recherche, ça peut être assez grave, c'est que les siècles ou les décennies de transition sont peu étudiés. Moi, je travaille sur le Moyen-Âge, je me dis, Louis XI, ça va bien, mais après, là, juste là, c'est aux autres. Et les autres, ils disent, non, on va pas empiéter. Donc, vous avez une trentaine d'années, il est certain que, puisque là, nous parlons de cela, les Charles VIII, Louis XII ont été assez peu.
Et c'est vrai, d'ailleurs, on parle beaucoup de Louis XI, on parle beaucoup de Louis XIII, mais c'est vrai que Charles VIII...
On recommence à François Ier.
Ou Louis XII sont négligés, on parle de Charles VII, enfin, c'est vrai.
On en fait des décennies, disons, des temps de transition, des temps de crise même. On a inventé, d'une certaine façon, des crises pour se dire, puisque ça baisse, quand ça remontera, ça sera encore plus beau, n'est-ce pas ? Si vous faites une renaissance, vous allez la magnifier en disant qu'avant, c'était vraiment abominable.
Alors si on fait abstraction de cette idée, de ce concept chronologique, de module du Moyen-Âge, ben, comment on peut le remplacer ? Est-ce que vous pensez que, par exemple, on pourrait essayer de découper l'histoire en grandes périodes séparées par des grands événements ? Je veux dire, par exemple, la découverte de la rère, la découverte de la Solement triennale, la découverte du collier pour le cheval,
oui,
pour prendre un exemple.
Je vois. C'est un problème car là, il n'y a pas de concordance chronologique. N'est-ce pas? Vous avez la seulement triennale ou la charrue. En Ile-de-France, par exemple, Picardie, Champagne, deux siècles ou trois siècles avant l'Auvergne. Évidemment, les conditions de relief, de terrain, les traditions peut-être aussi, nature des cultures l'imposaient. Donc, bon, l'imprimerie c'est clair, hein, tout le monde s'y est mis. Mais des choses qui sont liées aux traditions rurales sont beaucoup plus lentes à dire.
L'imprimerie, en fait, elle a été son propre promoteur.
Oui,
c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'imprimerie était née, elle a été connue tout de suite parce que les documents imprimés ont circulé, ce qui était leur objectif.
Oui, les autres circulaient un peu aussi, n'est-ce pas ? On recopiait très vite. L'imprimerie a eu un raisonnement extraordinaire. Il est aussi assez mal étudié parce que l'on a pris, et ce n'est pas ma spécialité du tout, mais tout de même, on a pris l'habitude de dire la première Bible et Bible et Bible. Bon, l'imprimerie servait à tout. Dans l'université de Bologne, il y avait déjà des cours polycopie en quelque sorte, enfin, imprimés, oui, pour les étudiants, qui ne se vendaient pas très cher.
Très peu de temps après, en fait.
Ah oui, oui, ça, avant que l'on ait imprimé à Paris. Verra, ah, oui, oui. L'imprimerie a commencé mal, je dirais presque avant Gutenberg, parce qu'il y avait d'autres techniques, n'est-ce pas, à Rome. Et puis à Bologne, oui, vers 1460, il sortait de ces fascicules-là, que les étudiants achetaient dans les boutiques, là, et dans les bibliothèques qui nous restent. Là, on voit ça. Alors que les traités de droit ou les traités théologiques coûtaient fort cher, là, il y en avait très peu.
D'après vous, quels sont les événements les plus importants par leurs conséquences sur l'esprit humain, la société humaine, qui se sont déroulés pendant cette période? Est-ce que d'abord ce sont des événements militaires ou plutôt des événements de caractère scientifique ou de caractère social?
Je ne suis pas très partisan d'accorder une importance extrême aux techniques. Nous venons d'en évoquer une, oui. L'imprimerie. D'autres, vous savez, le collier d'Atlas, je s'en ai tellement parlé, il y a des controverses de toutes sortes. Je crois qu'il y a eu une sorte de manie.
Il y a eu une mode.
Oui, une manie certain, de privilégier le technique. Ça,
c'était... Le livre de Jimpel là-dessus.
Oui, c'est de quelle année ça?
Jimpel, lui au contraire, n'est-ce pas, met les choses assez au point. C'est un anglais, parler du livre sur la construction des cathédrales, oui, bien sûr.
Mais également sur les différentes révolutions technologiques au Moyen-Âge, l'exploitation des mines. Oui. À ce propos, dans votre livre, il y a un passage où vous dites, on a pris ces gens pour des victimes d'un âge ténébreux, puis vous dites... entre le 10e et le 13e siècle, il y a des défrichements partout en Europe. Il faut penser qu'au début du 14e siècle, il y a moins de forêts qu'aujourd'hui en France. Tellement les gens ont tout occupé. Il y a un doublement ou presque de la population. Et il y a une prospérité formidable. Et il y a cette floraison merveilleuse des cathédrales qui suppose un dynamisme démographique, spirituel, économique et technique.
Mais sans aucun doute.
Étonnant. Oui. Alors cela, comment on l'explique, ce cœur du Moyen-Âge, cette fabuleuse prospérité entre...
Je crois que effectivement, il y a toutes sortes d'explications. Certains ont mis en avant les conditions climatiques en disant, bon, il y a peut-être, en effet, il y a sûrement la poussée démographique. Il fallait défricher, il fallait les gens, une sorte de calme, si vous voulez, dans les invasions, dans les guerres, si bien que sans que la paix ou la sécurité soit totale, les gens mourraient moins quand même. Peut-être une meilleure alimentation. Mmh. Il y a quand même une chose qui est extraordinaire à réfléchir dessus. C'est que cette civilisation dont on dit assez de mal, n'est-ce pas, les Romains.
Oui, l'âge des ténèbres, rappelez.
Oui, la nuit du Moyen-Âge.
Nicolas Bonal, c'est ça.
Et les Français sont encore modestes, hein. Les Anglo-Saxons sont pires que nous là-dessus. On nous dit cela, et puis voilà quand même des gens qui avaient, vous venez de l'évoquer, des instruments oratoires, pas minables, et qui coûtaient fort cher. Les chevaux coûtaient, le soc d'une charrue coûtait très cher, qui avaient des semences qui, évidemment, n'étaient pas sélectionnées, n'étaient pas hybrides, il y avait beaucoup de pertes, dont les rendements étaient relativement faibles. Ben, il y a beaucoup moins de famines. À l'époque, on en parle quelquefois, mais il n'y en a pas tellement. Il y a beaucoup moins de famines que dans des pays de l'autre côté des mers proches de chez nous.
C'est sûr. Mais il y a un autre événement fabuleux, c'est que lorsque Guillaume arrive en Angleterre, il fait écrire, donc en 20 ans, rédiger le Doomsday Book, en 1086, un an avant sa mort, Et on a un texte d'une précision extraordinaire sur la population anglaise, qui est de 1,5 million de personnes à cette époque, et sur toutes les richesses. Et aujourd'hui, il n'y a pas un pays du tiers-monde qui est capable, 1000 ans après, de faire un recensement de ce type.
C'est le Domesday Book, n'est-ce pas ? Et ça, c'est les Normands. Les Normands étaient des gens extraordinaires à la même époque, car nous oublions ça, c'est plus loin que nous, n'est-ce pas ? Ils conquièrent l'Angleterre en 1066. À peu près à la même époque, ils prennent le royaume de Naples et la Sicile, et ils font la même chose. Seulement, le document, nous ne l'avons qu'à moitié. Mais c'était le même, ou à peu près. Ce n'est pas les mêmes Normands, naturellement.
On parlait de démographie à l'instant. Quelle est, selon vous, l'importance d'un phénomène de dépeuplement terrible comme la Grande Peste ?
Ça, il y a eu aussi des modes, et nous avons tous été ou victimes ou complices. Je ne crois pas avoir écrit sur la Grande Peste, mais enfin, j'en ai beaucoup parlé en cours. Alors je suis comme tous mes collègues. Il y a eu une dizaine d'années, 61, 70 à peu près, où chacun se devait d'écrire un article sur la peste. Je crois que c'était terrible, très important, mais les études un peu synthétiques, un peu générales, montrent que ça a quand même été inégal, n'est-ce pas ? Alors évidemment, et je crois que l'on a commis des erreurs d'interprétation qui sont vraiment, qu'il était facile d'éviter. On vous dit la ruine. Bon, des populations, les malheurs, l'angoisse, la peur, l'abandon des cultures. Puis, aussitôt après, on vous dit la ruine. Mais non, les survivants ont davantage pour vivre.
C'est ça. Alors, c'est ce que je voulais, c'est dans ce sens-là que je vous posais cette question. Parce qu'on a l'impression qu'effectivement, dans l'immédiat, un drame, oui, comme cette épidémie terrible, est quelque chose qui peut tuer littéralement une civilisation, mais on a aussi l'impression, mais peut-être que c'est par perspective, que dès que ça s'arrête, c'est une explosion de dynamisme, de vie, de création.
Et de démographie. Et alors, très vite. Oui. Parce que, quoi qu'on ait dit, parce que naturellement, vous savez bien, c'est pour cela comme pour d'autres points de la civilisation, on vous dit l'Église, n'est-ce pas, les commandements étaient respectés. Non, il faut prendre l'homme pour ce qu'il est, et la natalité était contrôlée plus ou moins bien. C'est pas, mais elle était quand même vraiment contrôlée. On ne se mettait pas à faire des enfants pour les faire mourir de faim. Ça, c'est pas vrai. On voit, ou bien on repousse l'âge du mariage, ou bien, naturellement, on ne se marie pas du tout. Le nombre de célibataires, ce qu'on appelle à l'époque, mais on ne mettait pas l'accent. On les appelait les jeunes, tout simplement. Les enfants, n'est-ce pas? Ces gens-là, d'où les rixes quelquefois, n'est-ce pas, dans les villes, parce que quand les femmes allaient danser sur la place publique, bien. Ça, c'est une chose. Donc, il y a un frein. Il y a un frein à la natalité, et à partir du moment où il n'y a plus de circonstances économiques ou financières qui imposent ce frein, à ce moment-là, naturellement, les choses vont très vite. Et on nous a trompés, je dirais, à force de théories, par une idée absolument ridicule, et qui est une faute méthodologique grave, qui consiste à dire c'est défendu, donc on ne le fait pas. On a fait la même chose pour l'usure, exactement, n'est-ce pas ? Exactement. On dit regardez, c'est défendu. Donc, il n'y a pas de préintérêt. Moi, j'en trouve tous les jours.
Oui.
Tant qu'on veut.
Mais il y a une diabolisation du XIVe siècle. On a l'impression que dès que Jacques de Molay maudit la monarchie française, tout va craquer. Alors, effectivement, il y a les grandes pluies de 1315-1317. Il y a une petite crise des famines. Elles sont encore très localisées. On a tendance à généraliser, à dire que tout se détraque au XIVe siècle, que c'est le nominalisme qui va triompher, enfin, et qu'on arrive directement à l'ère moderne. Et quand on voit les choses de près, je pense au livre Jeunesse médiévale de la France moderne de Bagnard, je crois, c'est différent. Et puis, comme c'est à l'époque, il faut un mois pour traverser la France, donc c'est plus grand que c'est la Sibérie d'aujourd'hui. Alors vous imaginez aujourd'hui en Sibérie, coin par coin, comment on peut s'intéresser.
C'est une conquête à l'époque. Vous me faites le plaisir de blesser, de m'inviter à parler de ce livre. Je dirais qu'à l'origine de cela, il y avait la réflexion d'un de mes maîtres, n'est-ce pas, spécialiste de l'Italie, lui aussi, ivre noir, qui nous disait ceci, mais enfin vous nous parlez de désolation, de contraction, de perte d'élan, à la veille du moment où on va peupler l'Amérique. Il faut savoir, où il n'y a pas d'enthousiasme, où il n'y a pas d'esprit d'entreprise, où il n'y a pas d'homme, et puis, alors, on reste chez soi. Or, ils l'ont peuplé. Ils l'ont conquise. Alors,
vous parliez de l'Italie, professeur Jacquers, à l'instant, parce que non seulement vous êtes un médiéviste, mais vous êtes surtout, ou en plus, je ne sais pas comment il faut dire, un italienisant.
Je suis d'abord, disons.
D'abord.
Pendant que j'ai vécu et fait ma thèse, j'ai vécu 4 ans en Italie.
Vous êtes un spécialiste de Gênes.
Alors, justement, ça permet de poser une question qui, moi, m'a toujours intrigué. Est-ce que, et on en parle souvent aujourd'hui, est-ce que les spécificités non pas nationale, mais identitaire existait déjà à cette époque-là. Est-ce que le Génois était très profondément différent? Est-ce qu'il avait le sentiment de sa différence par rapport aux Marseillais ou aux Lyonnais?
Et par rapport aux Florentins aussi. C'est une des choses dont j'ai parlé avec certains de nos amis communs il n'y a pas si longtemps, parce que naturellement vous savez que le courant un peu politique en Italie du Nord tendrait dans une petite mesure à ressusciter ce compartimentage.
Oui, la Ligue Lombarde.
Oui, etc. Ils ont pris le mot de Ligue, qui au fond ne correspond pas. Hein, si on voulait vraiment regarder ce qu'était la Ligue Lombarde, ce n'est pas ça du tout. C'est une alliance avec le pape contre l'empereur et une alliance militaire. Et il n'y avait pas d'administration commune, il n'y avait pas d'institution particulière. Absolument pas. Mais j'ai écrit récemment un tout petit essai là-dessus. Ce qui est important, c'est, je crois, résumons-nous de cette façon, de dire qu'il peut y avoir une extraordinaire floraison intellectuelle, spirituelle même, artistique, littéraire. Nous sommes donc au XIIIe, XIVe, XVe siècle italien, et alors que dans le même moment, vous n'avez aucune sorte d'unité, et cependant, on a la conscience d'appartenir à une culture et à une civilisation. Ils n'emploient pas beaucoup le mot italien, mais ça, ce qui est en dehors des Alpes, n'en parlons pas beaucoup pour eux. N'est-ce pas? Donc, ils ont ça, ils ont ça présent à l'esprit, et ils tiennent leur individualisme. Et un individualisme forcené. Forcené. On veut, bon, ne faisons pas trop la politique, mais on nous a parlé de monnaie unique, comme si l'Europe ne pouvait vivre. Voilà des gens dont la prospérité, n'est-ce pas, est indiscutable. Ils ont conquis le monde, la Méditerranée, l'Orient, etc. Ils ont été les premiers investisseurs en Amérique. Les Sévillans ont suivi. Voilà des gens, la monnaie à Gênes n'est pas celle de Savone, à 60 km de là. N'est-ce pas? Elle n'est pas celle non plus d'Asti ou d'Alessandrie du Piémont, et celle de Milan encore moins. Les mesures, les poids ne sont pas les mêmes.
Ah, ça, c'est une dimension qu'on a retrouvée en Italie dans les années 70. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on ne trouvait plus du tout de monnaie, parce qu'on racontait que les Japonais venaient acheter les pièces de monnaie italienne pour faire des boîtiers de montres. Ça leur coûtait moins cher que de raffiner le métal eux-mêmes. Et à l'époque, on trouvait donc en Italie, je me souviens dans toutes les villes de l'Italie du Nord, les chambres de commerce locales émettaient
des billets. Oui, oui.
Ce qui pour nous français apparaissait comme un truc d'un exotisme fou, pour les Italiens c'était tout à fait normal. Donc il y a une dimension là, presque, il y a une psychologie nationale ou en tout cas qui est installée depuis longtemps.
Et je dirais pour vous suivre que l'uniformisation poids, mesure, monnaie enlève à l'habileté d'esprit l'occasion de s'exercer.
Alors,
ça c'est clair.
Ben, il y a une salle de l'uniformisation au musée des techniques.
Pour revenir en France, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a, par exemple, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, déjà un sentiment d'appartenance, un sentiment d'identité, sinon nationale, du moins spirituelle, culturelle, linguistique?
Je le pense, oui. Naturellement, ça dépend. Puisque nous avons dit qu'il y a 1000 années, il faut nous placer quelque part. Pas au moment de la croisade des Albigeois, sûrement pas, n'est-ce pas? Pas en Languedoc, ni en Provence, je dirais tout au long de ce que nous sommes en train d'appeler le Moyen-Âge, mais dans une France du Nord, largement, jusqu'aux franges de l'Auvergne, Bretagne exclue quand même, il y a là une unité sans aucun doute qui a été créée politiquement. Mais qui a été créé, et je n'en pense aucune sorte de mal, mais il pouvait y avoir d'autres solutions, mais qui a été créé par la conquête. Et il faut pas, n'est-ce pas, cette dynastie capétienne qui a des vertus, et qui a fait le pays, et qui a peut-être en grande partie assuré une prospérité et une sécurité, est une dynastie d'une puissance conquérante extraordinaire. Le bon roi Saint-Louis, il est à Paris, il est tranquille. Mais son frère est en train de prendre, n'est-ce pas, tout le Languedoc. Absolument, c'est lui, Alphonse de Poitiers, et l'autre frère, qui est peut-être le plus actif de tous, qui est Charles, prend en 20 ans la Provence et tout le royaume de Naples avec la Sicile. Vous vous rendez compte, quelle expansion? C'est extraordinaire.
Est-ce que ça a une réalité tangible, un empire comme celui-là, un empire qui va d'Avignon pratiquement au sud de Naples?
Absolument.
Ça existe vraiment?
Absolument. Quand j'en ai parlé quelquefois à mes étudiants, pas les miens parce qu'en histoire, comme ils sont un peu briefés, ils savent, mais des étudiants mettons de littérature qui me disaient, mais qu'est-ce que ça veut dire avec les difficultés de communication? Je leur dis non, nous n'avons pas beaucoup de documents. Mais certains de ceux qui nous restent sont remarquables, et l'on a, et ils ont été publiés, si bien que c'est extrêmement facile à étudier, lettres ou mandements envoyés par Charles d'Anjou pour gouverner Charles d'Anjou dont je viens de parler. Il est dans les fins fonds de la Calabre. Pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, il écrit à Angers. Il écrit à Angers, et ça marche, et il sait tout. Et les gens de la Chambre des comptes d'Angers exécutent, parce que, vous comprenez, il n'y a pas de contrôle à ordre. Il n'y a pas de téléx, il n'y a pas de discussion par téléphone. Mmh. Quand on reçoit avec le sceau du roi, on exécute aussitôt, parce que sinon ça se passera très mal. Donc, il gouverne. Voilà un homme qui gouverne, disons, pour résumer, Palerme, Naples, Marseille. Marseille, il se rebiffe un peu, mais disons Aix, n'est-ce pas, et Angers, où qu'il soit.
Alors ça, c'est passionnant, et ça montre bien comment on nous a bourré le crâne, à nous, élèves du secondaire, quand on étudie, par exemple, la période napoléonienne, et où on nous explique que c'est grâce à Napoléon que la France est devenue un pays géré, que Napoléon a créé des structures d'administration qui faisaient fonctionner le pays. On avait l'impression qu'avant, à 20 km du centre de décision, plus rien n'existait. Alors là, vous nous dites que du sud de la Calabre, oui. Charles d'Anjou gouvernait l'Anjou, c'est-à-dire qu'il y a quoi, c'est 3000 kilomètres.
Oui, plus de 2000 en tout cas.
Plus de 2000, oui. Donc déjà, bien avant Napoléon, il existait une administration qui gérait et qui organisait et qui obéissait.
Je crois que la différence est celle-ci, et c'est pourquoi on a tellement aimé dans la République, je dirais, Napoléon, c'est que il n'a pas innové en créant, il a surtout innové en supprimant. En supprimant tout ce qui pouvait être intermédiaire, n'est-ce pas ? Tout ce qui pouvait avoir un semblant ou même une réalité de décision sur place.
Et c'est la grande découverte de Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution. Oui. C'est quand il dit que le Moyen-Âge, c'est le siège du patriotisme municipal, par exemple, et des corps intermédiaires, et tout ça est broyé par la Révolution qui met le citoyen nu devant l'État.
Exactement, oui.
Alors, c'est une conversation un peu décousue, mais c'est vrai que les questions arrivent.
Je vous en prie.
C'est une période tellement passionnante. Alors, un auditeur, par exemple, nous demande de parler du statut de la femme. Alors, c'est toujours pareil, sur 1000 ans, on peut pas, mais aux alentours du 13e ou du 14e siècle, dit-il, est-il exact que, à cette époque-là, la femme, dans la civilisation occidentale, avait perdu une part du prestige et du statut social qu'elle avait connu auparavant?
C'est une auditrice.
C'est un auditeur.
Ah bon?
Oui. Il n'y a pas de racisme sexuel chez nous, comment
tu... Non, mais c'était pour... La question est extrêmement complexe. Et là, je dirais que l'historien se trouve gêné parce qu'il sait à l'avance que, si vous voulez, il y a des slogans ou des idées qui courent. Je ne suis pas le premier d'en parler, n'est-ce pas ? De mes, pas collègues, mais des dames qui ont écrit, Madame Régine Pernoud, Madame Bourin, ont parlé d'une façon romancée. Et je dis, moi, pour parler de cela, qu'il est frappant que les auteurs qui ont réhabilité le rôle de la place de la femme au Moyen-Âge aient été des femmes. Surtout celle que j'admire le plus, qui a écrit il y a un peu plus longtemps, qui est Zoé Oldenbourg, n'est-ce pas, dont les livres sont tout à fait remarquables. Je ferai remarquer une chose, n'est-ce pas, qui est celle-ci, c'est que je crois que l'on est en train d'évoluer et de penser que cette femme soumise, presque femme objet, c'est surtout vers les années 1500 et un peu après. Ceci, à mon avis, est assez net. N'est-ce pas ? J'en ai, si vous voulez, on vous dit, la femme, bon, ben, elle servait qu'à l'homme, procréer, etc., et puis le plaisir, l'ornement. On peut écrire ça très vite, on peut le dire un peu n'importe quoi, mais si l'on étudie, et je ne l'ai pas fait beaucoup, mais enfin je connais quelques familles italiennes, d'après leur comptabilité, on dépense infiniment plus en bijoux et en robes pour l'homme que pour la femme.
Ah, c'est clair, c'est net. À quelle époque ça,
je suis très exactement 1460.
15e siècle, la fin du
15e siècle. Oui. Et dans la vie de cour même, l'on voit aussi que les costumes masculins, bon, il suffit.
Et donc on est encore là très près de l'état animal, de l'état des oiseaux, par exemple, où en général les mâles sont beaucoup plus.
Ou alors plus donc le mâle a besoin de ça pour se mettre un peu plus en valeur.
Mais il y a quand même la littérature courtoise.
Oui. Alors avant de parler de ça, qui est un bon sujet,
voudrais citer une auditrice parce que ça parle à la fois de ce que vous venez de nous dire, du rôle de la femme et de la question démographique. C'est une auditrice qui a été élève du professeur Benassar et qui nous dit que quand on étudie la démographie, on s'aperçoit que les causes de la baisse la démographie, les causes de sa baisse ou de sa montée, on constate qu'après les grandes pertes d'individus, comme lors des grandes pestes par exemple, on se rue sur le mariage et on fait des enfants. Et elle ajoute, le professeur Benassar disait, on se sert des restes.
Oui, bah, oui, mais les restes sont peut-être plus vaillants, puisqu'ils sont...
Et bien sûr, ça y est, une sélection qui se fait.
Hélas, naturel ou du hasard, bien entendu.
Alors, cette affaire de cette question de l'amour courtois, qui est quand même une des grandes images qu'on garde du Moyen-Âge, quand on a appris le Moyen-Âge à l'école, comme moi, quand on l'a étudié, en survol rapide, on garde cette image des cours d'amour, des trouvères, de l'amour courtois, etc. Quelle réalité ça a, ça?
Il est très difficile de répondre et j'aimerais mieux, je ne dis pas ne pas répondre, mais être très prudent, parce que dans ce livre dont nous parlons en ce moment, j'ai cherché un moment, n'est-ce pas, l'éditeur voulait absolument une conclusion et c'est ce qui embarrasse toujours le plus un auteur. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit que tout cela, toutes les erreurs sont souvent naturellement venues de très mauvaises intentions. On les a analysées un peu, décortiquées, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure. Mais en plus, il y a aussi le cheminement de la connaissance historique. Vous ne pouvez pas exiger que nos prédécesseurs, nos maîtres d'il y a 50 ans ou plus, aient tout de suite travaillé sur les documents les plus précis, les plus difficiles. Donc ils ont travaillé sur la littérature. Donc, l'on nous présente, si vous voulez, une société qui est issue de la peinture donnée par des auteurs. Alors, je pose la question, est-ce que la société bourgeoise d'aujourd'hui est celle du théâtre de boulevard, ou d'il y a 30 ans? Est-ce que la société américaine est celle des troisièmes séries de la télévision? Oui. N'est-ce pas? Nous en sommes un peu là.
Et là encore, il y a une question de perspective, c'est-à-dire qu'on regarde à travers un prisme forcément déformant ou réducteur.
Cela n'est pas sans intérêt, car même si ça ne correspond pas à la réalité sociale, ça correspond à l'engouement intellectuel, à leur goût, à leur passion. Et il est intéressant aussi de savoir ce que les gens aimaient entendre ou voir même représenter sur les images.
Oui, il y a quand même une idéalisation de l'image de la femme comme manifestation de l'intelligence suprême, parce que les hindous appellent la bouddhique et la Béatrice de Dante ou même la Laure de Pétrarque.
Et dans la droite ligne du culte de la Vierge.
Oui, du culte de la Vierge.
Très proche, vous comprenez, à partir du 13e surtout, ou 12-13e, ça c'est évident.
Qu'est-ce qui explique selon vous l'importance du culte de la Vierge au Moyen-Âge?
Je ne crois pas que l'on puisse effectivement l'expliquer. Il a toujours existé, bien entendu. Les pèlerinages à la Vierge sont très anciens, mais puisque ce n'est pas tout à fait ma partie. Je crois qu'expliquer est difficile. Si vous voulez, la spiritualité s'est diversifiée, enrichie beaucoup. On parle beaucoup de saint François d'Assise, mais enfin, il n'est que le révélateur.
Je crois que c'est Régine Pernoud qui a écrit sur les pèlerinages beaucoup.
Beaucoup. On a beaucoup écrit sur les pèlerinages.
Alors, justement, pour rester dans cette direction... Une autre des choses qu'on dit et qu'on répète, alors là, dans les meilleures intentions, je pense, c'est que des personnages comme Saint Bernard ont joué un rôle considérable dans la civilisation, c'est-à-dire dans l'acte de civiliser la société médiévale.
Ce sont des meneurs d'hommes, et ce ne sont pas seulement des mystiques. Ce sont des mystiques, entendu, et certainement des gens qui ont été très rigoureux. Enfin, il faudrait citer d'autres noms, et il faudrait aussi peut-être un peu trier. Mais en plus, ce sont des hommes qui ont eu un rôle politique. Ça, c'est évident, qui ont joué un rôle comme conseiller des rois, comme bâtisseur de monastères, c'était la Saint-Denis. Effectivement, on leur accordait une audience, et ils étaient capables de l'utiliser.
À ce propos, toujours, un auditeur nous dit le mépris du Moyen-Âge date de la contre-réforme. Est-ce que ça vous paraît une...
Non, je ne pense pas. C'est-à-dire que l'on a complètement changé. Et puis là, je ne dis pas que vous me prenez... Tout à l'heure, nous nous sommes dit, n'est-ce pas, et peut-être cet auditeur a beaucoup plus là de renseignements que je n'en ai, ou y a réfléchi davantage, parce que là, j'ai 10 secondes pour voir...
Ah oui, c'est un exercice difficile.
C'est très difficile, c'est très différent de l'habitude. Si vous voulez, il faut... Je dirais ceci, il faut très bien connaître les intentions, la période. Or, cette contre-réforme, que j'aime beaucoup, lorsque je vois les édifices baroques, leurs décors, je ne suis pas...
Et même les cérémonies.
Je n'ai peut-être pas été toujours comme cela, on évolue, mais bon, maintenant, j'adhère complètement. Je crois qu'il y a eu... C'est un peu comme si l'on disait, si vous voulez, que l'art gothique flamboyant est en réaction contre le roman. Non, absolument pas. Il y a une évolution, et puis les sources spirituelles sont les mêmes, quand même.
Vous parlez dans votre livre, vous rendez justice au rôle de l'Église par rapport aux pauvres, également à la fiscalité. Est-ce que vous pourriez développer ce... Parce qu'on a l'habitude, nous, de caricaturer en disant le paysan, on lui prend les trois quarts de sa récolte, l'Église lui prend le reste, et après il meurt de faim.
On a dit ça. C'est pas seulement l'Église que j'ai voulu réhabiliter, en l'occurrence, parce que l'Église...
Je pensais à l'Église par rapport à la croisade contre les cathares,
Le problème financier est plus facile, là où nous sommes en ce moment, abordé. Il est entendu. Moi, je trouve extraordinaire de voir des gens d'aujourd'hui dire le paysan ou l'homme de l'époque était accablé d'impôts. Je trouve ça, moi qui vais porter mon enveloppe, là, et comme je la mets au dernier moment, n'est-ce pas, dans la boîte aux lettres du trésor public, l'inspecteur des impôts, on fait la queue pour porter, n'est-ce pas, le dernier dimanche. On est vraiment moutonnier à l'extrême.
Alors qu'à l'époque, il fallait que les fermiers généraux viennent chercher.
Pas des fermiers généraux à cette époque-là, d'ailleurs.
Le seigneur, il fallait qu'il vienne sur place.
Alors, le seigneur, on s'en est accommodé assez longtemps parce que le seigneur n'était pas si fou que ça. S'il avait beaucoup grêlé, plu, etc., il percevait moins. Il n'y a pas intérêt. Tandis que l'agent royal, il était expédié de Paris, n'est-ce pas, au XVIe siècle, par exemple, n'entendait pas, il n'entrait pas dans ces détails, et c'est le gros travail qu'a fait Roland Mounier pour l'époque du XVIe siècle, et après, toutes les révoltes paysannes sont des révoltes contre la royauté. Parce que la royauté est beaucoup plus dure, et nous en savons quelque chose, puisque nous héritons d'un État très organisé. Alors, voir des gens à qui on prend, enfin, pas tout le monde, il est vrai, mais au total, entre 40 et 50% de nos travaux, dire que les gens... Alors, on met tout ensemble, et on est malhonnête. Par exemple, vous parliez de la dîme. Bon, la dîme, c'est la sécurité sociale, c'est l'enseignement, n'est-ce pas, c'est les hôpitaux, c'est l'aide aux pauvres. Et vous voyez que c'est plus que 10%. Hein. Bon. Et quand on parle des redevances seigneuriales, allons très vite, n'est-ce pas, on cite à toute vitesse le sens, n'est-ce pas, par exemple, et puis les impôts. Mais le sens, c'est le loyer de la terre. Si je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas l'impression que mon propriétaire me prend un impôt. Il me prend un loyer. Or, tous les livres vous mettent le sens avec les impôts.
Alors, c'est cet aspect qui est particulièrement intéressant aussi dans votre travail, c'est qu'au fond, en faisant semblant de nier l'existence du Moyen-Âge, vous le réhabilitez. Et vous réhabilitez les aspects les plus contestés du Moyen-Âge. Par exemple, la féodalité, c'est clair qu'on sent bien qu'il y a une certaine faveur pour un système décentralisé avant l'heure.
C'est pas fait exprès. Non, mais ce que je veux dire, c'est ceci. Réhabilitation, peut-être, ça m'aurait échappé un peu. Disons, mise au point. Vous comprenez. En effet, il y a dans ce livre deux parties. Le premier, nous venons de l'expliquer assez longuement, en parler assez longuement, et la seconde, c'est de dénoncer un peu tout ce qui a été dit à tort et à travers. Là, je ne suis pas le premier à le faire. Je reprends, n'est-ce pas, l'exemple de Régine Pernoud, qui, elle, se plaçait sur un plan esthétique, plutôt de civilisation, en disant, comment pouvez-vous dénigrer une période qui a construit les cathédrales. Je suis plus économiste, n'est-ce pas, mais pas de compétences particulières dans ce domaine artistique et littéraire. Et je regarde ce qui se passe, n'est-ce pas, et je vois qu'effectivement, l'on a, par ignorance surtout, parce que les textes sont pas faciles à étudier, vous comprenez. Donc, dès qu'un slogan est sorti, on le répète. Ça, c'est évident.
Professeur Jacquard, je vous remercie. Alors, oui, il y a des questions.
Non, on a eu un message de vos élèves qui vous sont heureux de vous entendre et qui vous saluent.
C'est gentil. Non, il y a encore une question, pardon. Il y a deux questions qui me paraissent très importantes. Un auditeur dit que le Moyen-Âge semble avoir porté un faible intérêt au sens exact. Alors, disons toujours le Moyen-Âge...
C'est tout à fait à son honneur. C'était extraordinaire, n'est-ce pas? C'est des gens qui n'avaient pas l'idée de l'exactitude et qui ne pensaient pas qu'il y avait là une vertu indispensable. Ça, c'est clair.
Et vous pensez, alors...
Parce que je pense que moins on est exact, plus l'esprit travaille. Sinon, on s'engonce dans des formules toutes faites, on sort la règle à graduer, c'est fini. Naturellement, on ne peut pas construire un pont sans règle à graduer. Mais on
ni une cathédrale.
Ah, ça, c'est autre chose. Ça veut dire quand même qu'ils sont effondrés.
C'est de Beauvais.
C'est un propos d'historien, ça. C'est-à-dire que, effectivement, si on essaye de transformer l'histoire en science exacte, on arrive
ça aussi,
très, très rapidement
à des
catastrophes. Oui. Et puis, ultime question, n'y a-t-il pas une grande part de spiritualité gallo-celtique dans la renaissance des valeurs au Moyen-Âge? Ça, c'est un... Je vois à peu près d'où peut venir ce genre de question.
Oui, si vous voulez, ça dépend à quelle période on se place. Mais il est certain que le Moyen-Âge... j'ai écrit 30 pages uniquement pour montrer que l'Antiquité n'était pas oubliée, mais il n'y a pas que l'Antiquité, et je pense que ce qui vient d'être dit là serait valable dès Jules César, n'est-ce pas? Les Romains n'ont pas nivelé complètement les civilisations existantes, et donc la nôtre médiévale a hérité des deux à la fois.
Merci professeur, merci encore. Alors, je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Moyen-Âge, l'imposture, et c'est publié chez...
C'est Perrin,
librairie académique Perrin. J'avais peur de dire une bêtise.
Ils ne veulent plus être académiques, ils sont Perrin tout court.
Perrin, alors chez Perrin, voilà, ils ne sont plus académiques, ils sont plus une librairie d'ailleurs, ils sont alors, chez Perrin. Moyen-Âge, l'imposture, par le professeur Jacques Hers. Ne serait-ce que ça, je veux dire, quelqu'un qui a bâti toute sa vie sur une période de l'histoire et qui vient vous dire tranquillement c'est une imposture de prétendre que cette période a existé, ça mérite qu'on lise son livre. Mais c'est pas la seule raison, c'est un livre qui est tout à fait original et c'est un livre d'érudition, jamais ennuyeux d'ailleurs, c'est un livre d'érudition par un grand spécialiste. Merci encore. Et je me tourne maintenant vers Monsieur Pierre Wouter, c'est bien ça?
Oui.
J'ai la spécialité de massacrer les noms, je me méfie toujours un petit peu. Alors, j'ai parlé la semaine dernière de la manifestation que vous organisez, « La vie est un don ». Au mois d'octobre, mois du rosaire. Aujourd'hui, 7 octobre, fête du Saint-Rosaire. On ne peut pas trouver sujet plus intéressant que cette manifestation. La vie est un don, c'est une journée de rassemblement en faveur du respect de la vie. Alors, quelle est votre intention?
D'abord, nous sommes deux ménages à organiser cette journée. Nous ne cherchons pas à créer une association de plus, on considère qu'il y en a déjà pas mal. Nous ne cherchons pas donc à concurrencer ni les associations du respect de la vie, ni les associations familiales, ni les associations religieuses, mais nous les avons toutes réunies, toutes celles qui ont bien voulu. On en a invité 20, il y en a 17 qui seront présentes. Donc vous avez la liste d'eau.
On va pas la donner, mais on les connaît.
Ce sont les associations qui sont bien connus, je dirais, comme la OCPA, Magnificat, Père de Miséricorde, SOS Tout Petit, puis bien sûr Renaissance Catholique également, qui sera également présente, et puis la presse catholique, Famille Chrétienne, France Catholique, L'Homme Nouveau également, qui n'est pas sur le dépliant, la Alors, Nef, France Vimag.
L'idée de base est très belle parce qu'en fait c'est une célébration de la vie, hein. Pas seulement de la vie en tant que vie du nourrisson à protéger des menaces de l'avortement, enfin du futur nouveau-né, mais la vie comme élan. Alors je vois les grands thèmes des conférences, c'est la vie un don à privilégier.
Alors effectivement, on a vraiment des intervenants qui soit sont spécialisés dans l'accueil de la vie, comme Madame Christine Boutin, qui est d'ailleurs présidente du groupe parlementaire pour l'accueil de la vie. Bon, le père Labaki, qui est bien connu.
Qui parle de la vie, un don spirituel. C'est un très beau sujet aussi.
de Madame Françoise Cellier qui traitera le corps et l'âme, dont indissociable, le docteur Philippe Madre, président de Mère de Miséricorde, d'Urgence de Miséricorde, et André Récipon qui est président de la fondation Raoul Follereau, qui, comme vous le savez, est une association qui est de l'importante, qui s'occupe de la lutte contre la lèpre, qui, parce qu'il y a dans certains pays une recrudescence de la lèpre, donc c'est toujours d'actualité. Et puis il y a également donc des tables rondes, une sur la famille, une sur l'école, une sur la santé et une sur l'action législative et juridique.
Qu'est-ce que vous attendez d'une manifestation comme celle-là?
Alors ça, c'est une question qu'on nous a posée, parce que finalement, quand vous faites quelque chose, il y a deux solutions. Soit vous faites quelque chose d'énorme en voulant ratisser large et en voulant susciter un petit peu de nouveaux adhérents, de nouveaux sympathisants. À ce moment-là, ça coûte très cher. Ou alors vous voulez redynamiser des gens qui sont déjà convaincus, mais il faut quand même les motiver pour venir, et on se rend compte que même des gens qui sont très motivés, qui sont convaincus que l'avortement est le plus abominable des crimes, ne savent pas, lorsqu'ils sont avec des gens qui ne pensent pas comme eux, ne savent pas argumenter, n'ont pas d'éléments, ou n'ont pas l'information. Alors je crois que c'est important de leur donner des arguments, des éléments.
En quelque sorte, c'est un camp d'entraînement que vous organisez. Là. En termes militaires, on pourrait presque dire ça. C'est un camp une journée de ressourcement, on dit ça, de redynamisation.
C'est une journée de prière aussi, parce qu'on compte beaucoup sur la Providence pour nous aider dans notre combat, parce que je crois qu'autrement, on est forcément voué à l'échec.
Alors, il y a d'ailleurs une très belle idée, c'est que pendant toute la durée du rassemblement, pendant qu'il va y avoir des conférences, des tables rondes, des entretiens, etc., il y a un endroit dans lequel il y a une prière permanente.
Effectivement, donc ça commence d'abord par une prière. Ensuite, il y aura une messe dans le courant de la matinée et un oratoire dans lequel l'adoration du Saint-Sacrement sera permanente. L'Angélus avant le déjeuner, ce qui est une chose normale. Le chapelet pour démarrer l'après-midi et terminer par un salut du Saint-Sacrement.
Oui, enfin, c'est une chose normale, oui, ça, voilà. Évidemment.
Mais ça a un peu disparu. On a pensé, si vous voulez, en voulant réunir des gens de sensibilités différentes, on a mis un peu la foi de côté. Hein, on s'est dit, oui, mais c'est bien, on est tous frères et il faut pas exclure. Donc finalement, on dit plus qu'on est chrétien, on dit plus qu'on est catholique, on est chrétien. Puis oui, finalement, on est plus chrétien, on est croyant. Nous, on dit, on est catholique. Et puis voilà, on a envie
Français
de faire quelque chose d'être catholique.
Voilà. Alors, ça sera clôturé. C'est très bien fréquenté, c'est très 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 officiel puisque ça sera clôturé.
Vous dites ça parce que vous venez, Serge.
Oui, ça sera clôturé par mon Seigneur. Oui, c'est plus important ce que je vais dire là. Monseigneur 23, qui est évêque auxiliaire de Paris.
Et qui est je précise, qui est en charge de la pastorale familiale. C'est la raison pour laquelle on est invité. Nous devions être à l'origine dans Paris même. C'est la raison pour laquelle on avait demandé à l'archevêché de Paris. Et nous avions demandé également les AFC de Paris. Bon, finalement, c'est les AFC des Hauts-de-Seine qui viennent, notamment les AFC de Saint-Cloud. Et puis, Monsieur 23 vient, bien sûr, on est très content qu'il vienne, même si c'est à Saint-Cloud.
Alors, samedi 10 octobre, c'est samedi prochain, c'est après-demain.
C'est dans 3 jours.
Dopo Domani. De 10h à 19h, la vie est un don, journée de rassemblement en faveur du respect de la vie. Ça se passe à la salle municipale, 4 rues des écoles. C'est très très bien, la salle municipale, c'est très moderne.
Vous y êtes déjà allé, je crois.
Oui. C'est un endroit très... C'est pas la salle des fêtes des petits villages classiques, enfin un peu sinistre, en béton. Et tout. Non.
C'est en plein centre, c'est tout près de la gare, de l'hôpital, de la mairie, de l'église, c'est en plein centre de Saint-Cloud.
Et c'est très pratique pour venir de la gare parce que ça descend. C'est plus embêtant pour rentrer parce que ça remonte, mais on peut pas tout avoir.
Alors, je voulais juste vous dire un mot pour montrer qu'on est, effectivement, et en choisissant cette date du 10 octobre, sachant que la rentrée parlementaire est le 2 octobre, on serait en pleine actualité, puisque maintenant, il est pratiquement certain que les projets de loi bioéthique vont être inscrits à la session d'automne au Parlement. Et c'est la 4e session, donc ça va faire 2 ans que les sessions sont repoussées. Il y a un article dans, je pense, qui doit être votre journal de référence, qui est La Croix.
Oui, absolument.
Il y a un article, un interview de M. Bernard Bulat, qui est le rapporteur de cette commission. Je vous lis juste quelques lignes, parce que ça vaut son pesant de moutarde.
Je sens qu'on va se régaler.
Donc c'est un interview qui est donné par Marianne Gomez, qui est réalisé par Marianne Gomez. Certains vous reprochent d'avoir évité des questions de fond comme celle du statut de l'embryon. En effet, nous n'avons pas voulu rouvrir ce débat, et je pense que nous avons bien fait, car nous serions alors entrés dans une autre zone métaphysique.
Nous nous sommes placés dans une double perspective, celle de l'article 1 de la loi Veil sur l'avortement. Je rappelle à ce titre que la loi Veil garantit, l'article 1 garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Ce qui,
oui, c'est pour le tuer, ça.
Oui, c'est pour mieux le tuer. Hein. Et celle du Comité national d'éthique, parlant de l'embryon comme une personne humaine. Nous avons ainsi tenté de dégager une morale synthétique qui prenne en compte la diversité des opinions. La diversité des opinions, c'est quoi? C'est qu'il y a des opinions, comme la morale catholique ou la loi naturelle, qui disent, par exemple, nous, on n'a pas le droit de tuer l'être humain parce que c'est un être humain, on n'a pas le droit de le tuer. Puis il y en a qui disent, comme la morale socialiste ou d'autres morales que je ne citerai pas, mais que vous connaissez bien, disent on a le droit de tuer tout à fait. Et la synthèse, la morale synthétique de M. Boulac, ça veut dire que finalement on a le droit de tuer tout à fait.
Oui. Pendant les 9 premières semaines, un petit peu. Avec une prolongation en cas de nécessité. C'est ça l'idée de l'avortement, c'est que effectivement le moyen terme entre l'interdiction de tuer et la liberté de tuer, c'est tuer, on a la liberté pendant un certain temps.
C'est ça.
Et puis pour la deuxième partie, on peut toujours s'arranger. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à la veille de l'accouchement, on peut encore, on peut toujours s'arranger.
Et alors la fin de la question, si l'on avait dit l'embryon est une personne, on aurait remis en cause la loi Veil et c'était inconcevable.
Oui, c'est emmerdant, voilà. Effectivement.
Donc, vous voyez, c'est assez.
Les Romains le savaient, puisqu'ils ont fait une loi qui garantit les droits de l'embryon dès sa conception. Mais les mecs du comité d'éthique, qui sont tous d'ailleurs certainement des énarques à fonctionnement, à géométrie variable.
Alors, il y a des gens très bien, il y a pas des énarques, il y a Mme Yvette Roudier, qui est la présidente de la commission, et puis M. Bernard Bulat, qui est le rapporteur. Non, voilà. Alors, donc, vous voyez, je crois que le 10 octobre, donc dans 3 jours, à Saint-Cloud, on sera en pleine actualité. Et bien sûr, Mme Boutin parlera de ces projets de loi bioéthique qui sont très important, je les ai là, bien sûr, je vous en ferai grâce, parce que c'est à peu près aussi appétissant que le traité de Maastricht.
Oui. Mais il n'y aura pas de référendum.
Il n'y aura pas de référendum, certainement, puisqu'on n'est certainement pas apte à comprendre quoi que ce soit. Et puis la table ronde spécialisée avec Jean-Marie Gresset du Cercle de la Cité Vivante, que vous connaissez bien, Michel Raoul de la CPA et Jean-Marie Cognuot du Comité pour sauver l'enfant à naître, donc parlerons de ces questions bioéthiques.
Merci Pierre Boutters. Alors, pour se renseigner, pour s'inscrire, un numéro de téléphone, 40 17 03 58. 40 17 03 58.
Je voudrais juste préciser, et je vais en terminer par là, il est bien sûr possible de venir sans être inscrit. Vous ferez peut-être un petit peu la queue, parce que je pense qu'il y aura quand même du monde. Mais bien sûr, maintenant, c'est trop tard pour envoyer les bulletins d'inscription, les petits coupons réponses. Donc, appelez le 40 17 03 58 ou venez directement samedi matin à 10h à Saint-Cloud.
À la salle municipale de Saint-Cloud.
Merci beaucoup de m'avoir reçu une nouvelle fois et
puis
longue vie à votre libre journal.
Merci. Je ne voudrais pas vous quitter sans vous recommander la lecture d'un petit chef-d'œuvre, je ne crains pas d'utiliser ce mot, qui s'appelle Contre René Char, et c'est de François Crouzet. C'est paru aux éditions Les Belles Lettres. Alors vous savez que René Char, c'était un. Je dis c'était parce qu'il nous a quittés, c'était un poète qui était encensé par toute l'intelligentsia parce qu'il était résistant. On dirait, à quoi la résistance a-t-elle à voir avec la poésie? Oui. Eh ben, c'est comme ça, voilà, c'est parce que c'était comme ça. Et alors, pendant des années, c'est vrai qu'on nous a, vous me passerez l'expression sur Radio Courtoisie, emmerdé avec René Char comme c'est pas permis. Et là, monsieur François Crouzet, il a dit que vraiment, ça commençait à bien faire. Et alors, il a pris sa plume. Et c'est un très joli petit livre qui tient dans une poche intérieure, encore qu'il est un peu épais. Ça fait à peu près 30 000 mots. Ça commence comme ça. Alors, ça continue. Que dis-je? Ça recommence. Voilà 4 ans que René Char a quitté cette vallée de larmes. 4 ans qu'il a été soustrait à l'adoration des orphelins d'André Breton, des cantonniers provençaux, des thésards du Wisconsin, des retraités du maquis et des anciens de la NRF. Et voici que Gallimard bâtit un nouveau temple à l'idole. Ça s'appelle René Char, faire du chemin avec, ce qui est dans le droit fil des titres en sabir belge dont sont affublés plus d'un recueil, genre Dehors la nuit est gouvernée, ou Fenêtre dormante et porte sur le toit. Ça, c'est des recueils de René Char. C'est vrai, ça existait. Tiens. Alors, le bouquin, cela a plus de 300 pages, nous dit François Crouzet. Écoute la bagatelle de 410 francs, les vaches sacrées ne font pas tort aux veaux d'or. Alors, il continue. Aussitôt, à gauche, à droite, partout, grand jeu, grandes orgues, un concert universel, superbe livre hommage, magnifique retrouvaille, livre de la ferveur. On n'en finira donc jamais. En réalité, l'ouvrage n'est que fond de tiroir et rogaton, photos, coupures de presse, certificats,
documentaire, catalogue d'exposition, correspondance, un fourre-tout à respecter si on sait que c'est la piété de Madame Veuve Char qui l'a constitué. On devrait faire comme dans un défilé de condoléances, quand on n'a pas grand-chose à dire, s'incliner dignement et partir vite. Mais non, l'admiration de Char est obligatoire. Postulat, article de foi. Il suffit de prononcer son nom pour que tout un chenil de Pavloviens se mette à baver leur enthousiasme et à japper leurs adulations. En dire le mal, le moindre mal est d'un mauvais citoyen. La France, on le sait bien, se fiche éperdument de la poésie. Elle ne consent à s'intéresser aux poètes français que pour les envoyer à l'hôpital, au tribunal, au gibet, Verlaine, Baudelaire, Villon. Elle a fait des obsèques nationales à Victor Hugo, mais c'est que c'était un français exemplaire, coureur, grand-père et républicain. Quand René Char est mort en février 88, la France, pour la seconde fois, a été prise d'un tremblement sacré. Sion était dans la douleur, on n'entendait plus que pleurs et gémissements. Pareille communion dans la ferveur ne s'était pas vue depuis longtemps, au moins depuis l'avenue bouleversante du maréchal Pétain à Paris en 44 et l'arrivée non moins bouleversante du général de Gaulle quelques semaines plus tard à Paris. C'était beau. L'humanité sanglotait dans les bras du Figaro. Les hommes politiques étaient émus aux larmes. Chirac, les Tourneaux qui passaient alors pour Premier ministre, le mirobolant Jack Lang, Georges Marchais, le métallurgiste allemand bien connu, et jusqu'à un promoteur immobilier de Fréjus, du nom de François Léotard, dont on assure qu'il a été quelque chose pendant un temps au ministère de la Culture. L'un des plus grands poètes de ce siècle, dit Le Figaro avec toute la dignité triste d'un majordome affligé par un deuil de famille, cela a dû intriguer les abonnés. L'humanité hausse le ton, après Saint John Perse, après Aragon, il était le dernier des géants. Il fut un majuscule musicien des mots. Venant de l'humain, rien n'a plus guère d'importance, ni encens, ni insulte, on passe. C'est Libération, le journal de la gauche X, financé par la gauche caviar qui fait tonner les grandes orgues. La baguette magique qui fait scintiller les mots, une grâce presque convulsive, une œuvre d'art, comme on dit, souveraine et imprévisible, d'une puissance baudelairienne, d'une intensité égale à Rimbaud, avec des pulsations affectives d'une violence inégalée, et les sourires, et les grâces, et les délices. Ça continue comme ça pendant, je vous dis, 200 pages, 250 pages. C'est superbement écrit. Et alors les moments de plus haut comique, c'est quand il cite des extraits de Char, parce que c'est pas seulement un chapelet d'imprécations, c'est aussi un travail d'analyse du travail de Char, et c'est formidable, parce qu'il montre par exemple que tout est bon, tout fait vendre, des coquilles qui sont donc des erreurs d'impression, deviennent des traits de génie poétique. Et alors quand on regarde le manuscrit, on s'aperçoit que c'est tout simplement l'imprimeur qui s'est gouré. Et il y a un truc qui est formidable, c'est qu'à un moment, il y a le René Char dit, emploie le mot serre, S-E-R-S. Et l'imprimeur a écrit S-E-2-R-E. Ben, c'est formidable, c'est encore plus beau comme ça. Alors vous avez des textes, je voudrais arriver à trouver des citations, mais c'en est plein, hein. il faut vraiment que j'aille vite maintenant. Et là, la mélodie encore quelques instants se traîne, sous les arbres bleuis par la lune sereine, puis tremble puis expire, et la voix qui chantait s'éteint comme un oiseau se pose, tout se tait, ça c'est très très beau. Mais il y a des choses qui sont absolument merveilleuses, par exemple... cette phrase, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant, cycle bas. On est bien d'accord, c'est tout à fait. Oui, il parle aussi des gens, l'automne pour la feuille, l'eau bouillante pour l'écrevisse, et le favori le renard, ivre sur les épaules lumineuses de l'actrice. Voilà. Si vous n'aimez pas René Char, vous lisez François Crouzet. Si vous aimez René Char, vous soignez en lisant François Crouzet. Et si vous connaissez pas René Char, vous allez découvrir René Char et François Crouzet. C'est les éditions Les Belles Lettres, et ça s'appelle Contre René Char, une démystification irrésistible de droguerie et de talent.
On peut l'écouter également, on peut le lire en écoutant Boulez.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Le Bekech, diffusé en direct le mercredi 7 octobre de 18 à 21h, et en différé le jeudi 8 octobre dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les deux cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En envoyant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez bien, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonne semaine, rendez-vous samedi 10 octobre 92 à partir de 10h, salle municipale 4 rue des Écoles 92 Saint-Cloud pour la journée de rassemblement en faveur du respect de la vie. Bonne semaine à tous, que Dieu nous garde.
La radio libre du pays réel et de la francophonie, il est 4h53.